18h-20h,
votre grand journal du soir,
Nathalie Lévy.
Bienvenue à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, d'analyse, de débat sur Europe 1. C'est comme chaque soir et c'est votre grand journal du soir. Premier ministre qui prend la parole et une mobilisation qui se poursuit partout en France. Les prévisions de trafic dans un instant dans votre journal. Théo Menval, bonsoir Théo.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
18h20, mon invité sort tout juste du bureau d'Emmanuel Macron. Il est le président de la Confédération des PME. Il va réagir aux propos d'Édouard Philippe cet après-midi, François Asselin, dans 20 minutes dans ce studio. Et puis à 19h30, allez, c'est le week-end. Après cette actualité, cette semaine chargée, on va se détendre un peu avec Anne Roumanoff qui va nous accompagner jusqu'à 20h. Elle remonte sur scène, elle sort un livre et puis on vous donnera plein d'idées de lecture au chaud et des gourmandises aussi pour ce week-end. C'est l'info qu'il vous faut, c'est votre grand journal du soir. C'est parti, jusqu'à 20h. Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
Ma logique n'est pas et ma logique ne sera jamais celle de la confrontation.
La main tendue, mais la main ferme du Premier ministre ce soir. Édouard Philippe promet le dialogue. Il rendra public son projet de réforme sur les retraites mercredi prochain, mais ne fera pas marche arrière sur la suppression des régimes spéciaux.
Les syndicats maintiennent la pression. Ils appellent à une nouvelle journée de grève mardi. C'est le bras de fer qui se profile, disent-ils.
Le gouvernement joue l'opposition des uns et des autres en agitant toujours pareil l'emblème des régimes spéciaux.
Et aujourd'hui, comme tout le week-end, le trafic reste très perturbé dans les transports. Point complet et prévisions à suivre. On verra aussi comment les parents d'élèves s'adaptent et s'entraident quand les écoles restent fermées.
Dans ce journal également, l'hommage rendu à Nîmes aux secouristes de la sécurité civile morts lors des intempéries du week-end dernier, en présence des rescapés qu'ils ont aidés à sauver.
Il ne m'a pas quitté des yeux. Il avait une assurance formidable, quoi. Il me disait « ça va ».
Et puis, patatras pour l'équipe de France féminine de handball. Éliminée dès le premier tour des championnats du monde, les Bleus étaient tenantes du titre. La Bourse de Paris termine en hausse de 1,21% à 5 871 points.
Anissa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
De quelle couleur sera le ciel ce week-end ?
Alors, c'est très partagé sur la France puisqu'une perturbation est en train de traverser le pays en ce moment. Il y aura donc encore de la pluie demain sur certaines régions, mais du soleil dans le sud. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Théo Manval.
Pour la première fois ce soir, nous avons donc un calendrier. Édouard Philippe présentera mercredi son projet de réforme du système de retraite devant le Conseil économique, social et environnemental. Annonce cet après-midi lors d'une allocution télévisée où le Premier ministre a allié geste d'ouverture aux syndicats sur les durées de transition, mais fermeté aussi sur le fond de son projet.
Je le dis tranquillement, la mise en place d'un système universel de retraite implique la disparition des régimes spéciaux. Je dis également à tous les personnels de la RATP et de la SNCF et à tous les Français qu'il ne serait pas raisonnable, pas acceptable, pas juste de changer les règles en cours de partie. C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué ma disposition totale pour faire en sorte que les transitions soient progressives afin de ne pas être brutales.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1 nous a rejoint. Bonsoir Jean-Rémy.
Bonsoir Théo, bonsoir à tous.
Édouard Philippe fait donc le pari, ça paraît osé, que les syndicats finiront par se ranger à son texte.
Oui, c'est la raison pour laquelle le Premier ministre martèle encore et toujours que, malgré les blocages, malgré les grèves, la porte est ouverte aux syndicats. Édouard Philippe rappelle qu'il ne reviendra pas sur le principe d'une retraite universelle à points, que les régimes spéciaux vont disparaître, mais sur la table, il reste un certain nombre de points, comme les rythmes de transition. On a encore des choses à négocier, promettons à Matignon. Même chose, par exemple, sur certaines catégories comme les profs. L'exécutif promet que cette réforme se fera sans recul de leur retraite. Une vaste augmentation des enseignants est actuellement à l'étude. Édouard Philippe qui a effectivement précisé le calendrier, il prendra la parole mercredi à midi depuis le Conseil économique, social et solidaire, le CESE, où il avait déjà décliné les grands principes de la réforme en septembre dernier. Une manière d'inclure les corps intermédiaires, dont les syndicats, dans cette réforme. Rien ne se fera sans eux, explique un proche d'Édouard Philippe, qui promet qu'en coulisses, au-delà des postures, les discussions avancent des deux côtés. Et ce conseiller d'affirmer, si ça n'avançait pas, les syndicats ne viendraient tout simplement plus aux concertations.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Et ce matin, l'intersyndicale a en tout cas accentué la pression après la grosse mobilisation d'hier un peu partout en France. Nouvelle journée de grève interprofessionnelle prévue mardi avec de nouvelles manifestations. Et les promesses d'Édouard Philippe sur une transition plus progressive n'y changent rien. Écoutez la réaction à l'instant d'Yves Verrier, secrétaire général de Force Ouvrière.
Le gouvernement joue l'opposition des uns et des autres, en agitant toujours pareil l'emblème des régimes spéciaux. Mais si on ne change pas les règles en cours de partie, ça vaut pour les salariés du régime général. Les 18 millions de salariés actifs du système de la sécurité sociale, ils sont engagés eux-mêmes par une règle qui est celle des 25 meilleures années. Et donc, on ne change pas non plus, dans ce cas-là, la règle en cours de partie.
Yves Verrier, secrétaire général de FO, avec Olivier Samin. La grève a en tout cas été très suivie aujourd'hui encore dans les transports. 9 TGV sur 10 supprimés, comme 7 TER sur 10. 87% des conducteurs de train ont débrayé, c'est encore plus qu'hier. Aurélien Fleureau, on va faire le point avec vous. Quelle prévision de trafic pour ce week-end à la SNCF, sachant que la grève court au moins jusqu'à lundi?
Alors, pas de surprise, ce sera encore très compliqué avec un TGV sur 6, 2 allers-retours Paris-Marseille seulement, mais 7 entre Paris et Rennes, par exemple. Pour les intercités, là, c'est désertique. 5 allers-retours maintenus samedi, dont 2 entre Paris et Caen. 10% seulement du trafic TER sera assuré, et encore essentiellement par des cars. Pour les transiliens en région parisienne, ça ne bouge pas, toujours 15% du trafic. Alors voilà, tout cela, c'est pour samedi, mais dimanche, attendez-vous au même type de journée, avec simplement quelques intercités en plus sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. La RATP a également annoncé ses prévisions pour le week-end. Quasiment pas d'amélioration, avec 9 lignes de métro fermées cette fois. Simplement, les efforts seront concentrés sur la tranche horaire 13h-18h. Et puisque la mobilisation va continuer lundi, il faut s'attendre là aussi à un trafic encore très perturbé, aussi bien côté SNCF que côté RATP.
Et alors, on en parle, Aurélien, la situation est aussi très compliquée sur les routes en Ile-de-France, d'ailleurs depuis une heure et demie déjà.
Oui, alors c'est vrai que c'était extrêmement fluide hier, mais aujourd'hui, c'est tout le contraire, avec 582 km de bouchons cumulés en ce moment-là à 18h. Pour vous donner un élément de comparaison, c'est une courbe qui est largement au-dessus de ce qui est d'habitude considéré comme exceptionnel, soit 450 km de bouchons, un vendredi classique en fin d'après-midi.
Europe 1 Info Service, merci beaucoup Aurélien Fleureau.
Il est 18h05 sur Europe 1, la suite du journal. Théo Manval, Nathalie Lévy.
La situation était un peu plus calme aujourd'hui dans les écoles. Environ 5% de grévistes dans le primaire comme dans le secondaire, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Mais de nombreux établissements sont quand même restés fermés, Théo.
Et les parents ont dû s'adapter. Le système D se développe. Yasmine Nakatou, vous êtes en ce moment avec des mamans d'élèves à Paris qui ont mis en place un système de relais.
Effectivement, l'organisation et la solidarité se sont mises en place entre les mamans du quartier. Un groupe WhatsApp a même été créé. Chacune y met ses disponibilités. Une maman s'est occupée des enfants à la pause déjeuner. Vanessa a pris le relais depuis 15 heures et elle a récupéré 5 enfants à l'école primaire. La maman pense déjà à l'organisation pour la semaine prochaine.
J'ai organisé et anticipé pour que j'ai le moins d'impératifs possible. On a anticipé avec les mamans proches qui vivent dans le quartier. Probablement, il va y avoir des échanges ce soir où peut-être tel et tel parent vont solliciter tel autre parent pour organiser le déjeuner des filles, faire des déjeuners groupés. En tout cas, moi, je vais me rendre disponible pour pouvoir aider s'il y a besoin.
Loin de ces préoccupations, les enfants, eux, se réjouissent de ces jours de grève. Manches relevées, beurre et odeur de cannelle, les filles sont en plein atelier gâteau de Noël.
Je trouve que c'est un peu cool parce que c'est un peu énervant l'école. C'est beaucoup mieux de faire des gâteaux. C'est mieux que travailler à l'école.
En fait, c'est vraiment bien. C'est comme si on était en mai, parce qu'en mai, il y a le pont, donc voilà. Enfin, c'est bien l'école, mais c'est bien aussi de faire quelque chose avec mes amis, une activité ensemble.
Comme un air de vacances, et les enfants repartent le ventre plein. Vanessa doit maintenant déposer chacun des 5 enfants dans leur maison respective.
Merci beaucoup Yasmina Katou. Et puis un dernier mot à ce sujet pour vous dire qu'une enquête judiciaire a été ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant un manifestant au sol frappé par 2 policiers lors du cortège d'hier dans la manifestation parisienne. Enquête judiciaire ouverte et confiée à l'IGPN. C'est ce qu'indique ce soir le parquet de Paris.
Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Théo Manval et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, l'émotion et l'hommage aussi sur la base de la sécurité civile de Nîmes-Garon. Hommage aux 3 secouristes décédés dans un crash d'hélicoptère le week-end dernier.
Et puis l'équipe de France féminine de handball éliminée des championnats du monde dès le premier tour.
Votre grand journal du soir, c'est toute l'info qu'il vous faut et c'est tous les jours jusqu'à 20h. La suite du journal sur Europe 1 avec Théo Manval et Nathalie Lévy.
Emmanuel Macron a salué aujourd'hui 3 hommes de courage et d'honneur, 3 héros, hommage poignant sur la base aérienne de Nîmes-Garons dans le Gard, c'était ce matin.
Le président de la République, le ministre de l'Intérieur, des dizaines d'élus, mais aussi des rescapés des inondations du week-end dernier dans le Sud-Est, sont venus honorer la mémoire des 3 membres de la sécurité civile morts dans le crash de leur hélicoptère près des Pennes-Mirabeau. C'était dimanche dernier. Nathalie Chevance.
trois cercueils recouverts du drapeau tricolore sur le tarmac de la base hélicoptère. Ils étaient d'anciens militaires, pilotes chevronnés, mécaniciens de bord, pompiers professionnels au service de la sécurité civile. Jean, Michel, Norbert, trois pères de famille, des hommes de courage et d'honneur, des héros salués par Emmanuel Macron.
Vivre pour sauver d'autres vies, c'est votre quotidien, votre honneur. Je ne connais pas d'engagement plus humain. À chaque fois que vous mettez vos casques, à chaque fois que vos hélicoptères s'élèvent au-dessus des nappes de brouillard ou des fumées, vous affirmez le prix incommensurable de la vie à sauver. Prenant tous les risques, les Français le savent.
Un équipage qui, le jour du crash, avait participé à une quinzaine d'élitreuillages, dont celui d'Alain, habitant de Pertuis, qui doit sa vie à Norbert Savornin, le pompier tué dans l'accident.
Il ne m'a pas quitté des yeux. Tout le long de la remontée, il avait une assurance formidable, quoi. Il me disait, ça va, toute ma vie, je l'aurai là, quoi. On voyait qu'ils avaient vraiment l'habitude de ça. C'était confiant, très confiant. J'étais obligé de venir. Pour leur hommage, je suis triste, vraiment.
Des hommes élevés au grade d'officier, de chevalier de la Légion d'honneur sur cet aéroport, destiné à devenir le fer de lance de la sécurité civile européenne. Nîmes, oui. Nathalie Chevance, Europe 1.
Et dans le reste de l'actualité ce soir, François Bayrou, cette question sera-t-il mise en examen?
Il est entendu depuis ce matin au tribunal de Paris par les juges chargés de l'enquête sur les assistants parlementaires du Modem au Parlement européen. Ses collaborateurs étaient-ils payés sur les deniers de Bruxelles pour un travail en fait uniquement au service du parti centriste? Une douzaine de responsables Modem sont déjà mis en examen dans ce dossier. 30 ans de prison requis à l'encontre de Willy Bardon aux assises de la Somme dans le procès pour le meurtre d'Élodie Kulik. Le jury s'est retiré pour délibérer. Verdict attendu dans la soirée. À l'étranger, début en ce moment d'une nouvelle marche pour le climat à Madrid, en marge de la COP25. Marche en présence de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg.
Bah, on termine avec les sports. Hein. On termine mal. Du handball, grosse désillusion pour les filles de l'équipe de France.
C'est
mince
le moins
alors
qu'on puisse dire. Elles étaient tenantes du titre et elles se sont fait sortir cet après-midi dès le premier tour des championnats du monde au Japon. Bonsoir Christophe Lamarre.
Bonsoir Théo.
Christophe, on est inquiet forcément parce que dans 6 mois, ce sont les Jeux Olympiques.
Disons que cela fait mauvais genre, une grosse patte de mouche sur une copie jusque-là parfaite. Vice-championne olympique, championne du monde et d'Europe en titre, les Françaises vont jouer la Coupe du Président. Ces matchs de classement réservés aux sélections éliminées prématurément. Personne n'imaginait la France sortir si vite et surtout pas les joueuses qui ont accusé le coup. Il flottait déjà dans l'air de Kumamoto comme un parfum de revanche. Mais il va falloir ronger son frein d'ici aux Jeux de Tokyo. Cette bonne claque, comme vient de l'expliquer Olivier Crumbles, va permettre à tout le monde de se remettre en ordre de marche. Et surtout, de remettre de l'ordre dans son jeu. Les Françaises ont été méconnaissables et cette fois, la gardienne Amandine Lesnaux a fini par flancher 6 arrêts seulement contre des Danoises qui jouaient leur survie. C'est trop peu. En attaque aussi, ce fut famélique. La faute à la maladresse. La faute aussi à la gardienne Sandra Toft, véritable mur mobile. La France est éliminée au premier tour alors qu'elle visait une nouvelle médaille d'or. C'est un coup d'arrêt, mais ce n'est pas encore la fin d'un cycle. L'objectif est toujours le même, décrocher le titre olympique dans 7 mois à Tokyo. Cette équipe de France-là en est bien sûr toujours capable.
Allez, on y croit. Merci beaucoup Christophe Lamarre. Un dernier mot pour vous dire qu'il y a du football ce soir, début de la 17e journée de Ligue 1. Brest reçoit Lille à 19h et Lyon se déplacera à Nîmes à 20h45.
Et vous Théo, vous revenez dans 15 minutes pour un nouveau journal complet. À tout à l'heure. Anissa, encore de la pluie demain, voilà le programme.
Oui, effectivement, il y a une perturbation qui est en train de traverser la France depuis cet après-midi. Eh bien, cette perturbation sera toujours présente demain. Alors, sur l'Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne, la région lyonnaise, les Alpes, la Bourgogne et la Franche-Comté, il y aura des pluies un peu plus fortes le matin que l'après-midi. Dans l'après-midi, ces pluies, elles vont même se décaler et elles seront plus rares avec des éclaircies sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et le littoral méditerranéen, donc tout le long de la Méditerranée, sur le golfe du Lion. Là, le ciel est dégagé avec de belles éclaircies demain après-midi. Mais attention, le Mistral et la Tramontane se lèvent avec des rafales jusqu'à 60 km/h. En Corse, toujours un ciel variable avec, à l'ouest de l'île, des averses possibles demain après-midi. Les températures, allez, ça se réchauffe un peu, surtout l'après-midi. Moins 1 à Avignon, moins 2 à Lyon, 5 degrés à Saint-Étienne-Lille et Clermont-Ferrand, 7 à Paris. Demain après-midi, 11 degrés pour la capitale, 14 à Brest et Biarritz, c'est jusqu'à 16 degrés à Montpellier.
Europe 1.
À suivre, votre invité de 18h20, Nathalie Lévy.
Oui, il était il y a encore quelques instants avec Emmanuel Macron. Il va réagir au propos d'Edouard Philippe cet après-midi, au deuxième jour de grève. Quelles sont les conséquences pour les PME à terme? François Asselin, le président de la CPME, dans ce studio dans moins de 2 minutes.
Vous écoutez Europe 1, c'est votre grand journal du soir et c'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir, alors que se poursuivent les mobilisations contre la réforme des retraites, vous recevez ce soir en direct, Nathalie, le président de la Confédération des PME, François Asselin.
Bonsoir François Asselin.
Bonsoir.
Merci d'être dans ce studio à mon micro ce soir. Évidemment, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Vous sortez de l'Élysée il y a quelques instants. Merci d'être venu directement chez nous. Que vous a dit Emmanuel Macron ?
Oh, on a abordé bien évidemment le sujet, puisque c'est le sujet d'actualité des retraites. Et puis, je voulais aborder plein d'autres sujets, puisque nous avons devant nous aussi d'autres réformes à venir, ne serait-ce que la santé au travail. Et puis, j'ai abordé aussi un sujet qui pour nous est très important, c'est la place des partenaires sociaux et des corps intermédiaires dans notre pays.
Alors, si vous voulez bien, reprenons par thème les retraites, parce que c'est quand même le nœud du problème en ce moment. On a entendu Édouard Philippe, on va y venir dans un petit instant. Édouard Philippe qui communique il y a 2 heures de cela, de manière un peu impromptue, comme ça, pendant 15 minutes. Et un président que vous avez senti comment, après ces mobilisations d'hier, plus de 800 000 personnes à travers tout le pays.
Un président plutôt serein, et puis en même temps déterminé. Serein, pourquoi ? Parce qu'il sait qu'il doit aller et il ira au bout de cette réforme. Maintenant, c'est comment y arriver ? Et là, effectivement, hier, on a bien vu que c'était surtout une manifestation massive, mais très, on va dire, concentrée sur le public. Hein, voilà, les actifs dans le public et les régimes spéciaux. Il ne faudrait pas, politiquement pour lui, que viennent s'agglomérer d'autres catégories d'actifs qui sont inquiets aussi de cette réforme. Donc, il faut rassurer ces actifs, puisqu'il y a des éléments quand même positifs dans cette réforme. Imaginez, par exemple, qu'un agriculteur, aujourd'hui, a une retraite moyenne de 780 euros. Demain,
qui
c'est 1 000 euros.
Effectivement,
voilà, il y a
à
les
la
carrières
hausse.
Longues qui seront prises en compte.
Donc, vous
privé.
Nous dites, là, ça y est, vous êtes en tout cas rangé du côté de l'exécutif. Vous signez, entre guillemets, un chèque en blanc pour cette réforme des retraites.
Il ne s'agit pas de signer un chèque en blanc, parce que maintenant, il faut savoir comment le gouvernement, l'exécutif, va sortir de cette affaire de blocage. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que cette réforme soit universel pour certains et exceptionnel pour d'autres.
Mais c'est ce qui tend à l'être. Puisque regardez, on a déjà envoyé une lettre aux policiers, Christophe Castaner, pour leur dire compte tenu de la dangerosité de votre fonction, on ne change rien. Les enseignants, on va revaloriser vos salaires parce qu'il ne s'agit pas que vous soyez perdants. Ça va être par corporation. Alors, on va faire le tri.
C'est le danger. Comme vous le dites, c'est le danger. Pour autant, il faut reconnaître qu'il y a des missions régaliennes de l'État. Il faut les respecter. Donc on n'a jamais été contre, nous, à la CPME, puis globalement le secteur marchand, contre le fait de reconnaître qu'il y a certaines missions régaliennes. Comme dans le secteur marchand, vous avez des gens qui commencent de bonne heure par l'apprentissage et qui puissent partir parce qu'ils ont une carrière longue plutôt que les autres salariés. Pour autant, effectivement, il faut regarder cela de près, puisque, et c'est d'ailleurs ce que risque de faire, ce que va faire certainement le gouvernement, il va, si je puis m'exprimer ainsi, travailler par appartement. C'est-à-dire qu'il va traiter d'un côté les régimes spéciaux, SNCF, les fonctionnaires, par exemple les enseignants, parce que les sujets ne sont pas les mêmes d'une catégorie à
bien
une
sûr.
Autre.
Mais faire du cas par cas comme ça, ça ne vous gêne pas, parce que finalement ça revient à nier l'universalité de la réforme.
Alors il y a deux remarques par rapport à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si on fait du cas par cas pour certains et pour les autres,
oui.
Eh bien, on y va franco, là, effectivement, ça risque de coincer, et coincer fort. C'est pour ça que nous attendons, nous, à la CPME, la façon et la méthode dont le gouvernement va s'y prendre. C'est très important, parce qu'il ne faut pas oublier quand même quelque chose dans le pays. Vous avez des indépendants des professions libérales, ils sont plus de 3 millions, leurs caisses sont équilibrées, ils ont même des réserves. Vous avez les salariés du secteur marchand, avec une caisse équilibrée qui a des réserves. Il ne faudrait pas, entre guillemets, que les efforts des uns servent finalement à ceux qu'il faut accompagner.
Exactement. Alors, quand même, vous me dites déterminé, serein, François Asselin. Mais moi, quand j'entends Édouard Philippe tout à l'heure, ma logique n'est pas celle de la confrontation, c'est ce qu'il dit, ajoutant qu'il faudra renoncer aux régimes spéciaux, mais nous avons le temps. Que veut dire cette prise de parole quand même ? Comment vous la traduisez au lendemain de cette grève, à la veille de la journée du 10, mardi, nouvelle mobilisation, ces 800 000 personnes hier dans la rue ? Il n'y a aucun moment où vous sentez que ça vacille du côté de l'exécutif ?
Pour l'instant, très honnêtement, non. Nous avons rendez-vous lundi après-midi avec Jean-Paul Delevoye et Agnès Buzyn. Il y aura la prise de parole du Premier ministre
mercredi à midi.
Et donc, on sent que l'exécutif déroule son programme. Et il va jouer sur quoi ? Sur le temps de transition, sur la mise en application et sur le déverrouillage appartement par appartement. C'est ce que nous attendons de savoir exactement, mais qui va être concerné ?
Je voudrais qu'on regarde évidemment les entreprises de près, parce que certaines ont déjà commencé à payer cher hier et vont encore payer cher ce week-end. Je parle surtout notamment des commerçants. Est-ce que vous avez déjà une première estimation du coût de ces deux journées de grève sur l'ensemble du pays ?
Alors, une journée de grève, on a réactualisé nos estimations qui dataient de 2010 pour les dernières. C'est environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le pays. Alors, quand on parle de grands chiffres comme ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais ça veut dire que vous avez des commerçants qui ont fait zéro de chiffre d'affaires.
C'est pas moins 20, moins 30, c'est carrément zéro.
Ah ben parfois, si vous êtes sur le chemin d'un cortège de manifestation,
on a fermé boutique.
Vous fermez boutique. logique. Et puis, vous avez tous ceux qui devaient se déplacer, qui ne se déplacent pas. Quand vous avez un rendez-vous commercial pour signer une affaire, ce rendez-vous est annulé, l'affaire n'est pas signée. Sera-t-elle plus tard? C'est une hypothèse.
C'est la
pas
région
sûr.
Île-de-France qui a payé le plus lourd tribut.
Oui, globalement, l'impact est surtout sur la région parisienne et Île-de-France. C'est environ la moitié de cette somme, environ 200 millions d'euros, qui est impactée pour la région Île-de-France.
Vous sortez donc de l'Élysée où vous avez rencontré Emmanuel Macron. Vous avez demandé? Vous avez d'ores et déjà amorcé quelque chose, une demande dans le sens d'un soutien financier?
Oui, c'est déjà fait, puisque ce matin, nous avions une réunion téléphonique avec Agnès Pannier-Runacher, la ministre, la secrétaire d'État chargée au niveau du commerce et de l'artisanat, pour tout de suite mettre en place les cellules de suivi économique en département pour accompagner nos adhérents, artisans, commerçants, entrepreneurs, qui pourraient être impactés par ces jours de grève. C'est tout simplement parfois actionner un moratoire au niveau de l'URSSAF, au niveau de la DGFiP, pour éviter que ça soit une double peine.
Mais ça, c'est du long terme? Enfin, du moyen ou long terme, c'est de l'administratif. C'est pas un soutien financier, c'est pas sonnant et trébuchant là demain.
Mais vous savez, le problème, c'est que certains de nos adhérents sont sortis rincés d'il y a un an de la période des Gilets jaunes. Et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement fragiles. Donc, d'éviter de pouvoir, entre guillemets, payer l'URSSAF ou de décaler une échéance de la DGFiP, des impôts, ça peut leur sauver la mise.
Donc, aujourd'hui, ça vous contente? Pour l'instant, à ce
pas,
stade.
Parce que, bien sûr, mais pour autant, si vous voulez, ça ne remplacera pas les journées de chiffre d'affaires qui n'ont pas été faites. Et il ne faut pas oublier que ces entrepreneurs ont aussi des salariés.
Et vous craignez que les choses évidemment durent, parce que mardi, bis repetita, que vous disent les entrepreneurs? Que vous dit-on?
Les entrepreneurs sont très clairs là-dessus. C'est-à-dire que, rendez-vous compte, ils se disent, nous sommes doublement victimes. C'est-à-dire que nous avons tout le temps cotisé d'une façon en bon père de famille, géré notre caisse de retraite, et ce sont ceux qui ont des forts déséquilibres, qui ont bénéficié depuis plus de 40 ans de notre générosité, qui finalement nous empêchent de travailler. Il faut faire attention à cela.
Évidemment, François Asselin, on en a parlé en début d'interview, les salariés du privé, on se dit qu'ils ont été assez peu présents dans les cortèges hier. Je regardais les chiffres, 6% de grévistes chez Orange, quelques arrêts de travail dans certaines usines, Renault chez PSA. Vous ne pensez pas que mardi, ils vont descendre plus nombreux encore dans la rue? Vous ne craignez pas ça?
Il faut, pour cela, pour éviter cela, que l'exécutif rassure sur les éléments de la réforme qui sont quand même positifs pour les salariés du secteur marchand, du privé. Et il y en a, je vous parlais des carrières longues, ça va être conservé, c'est important. Quand vous avez une carrière qui est aussi séquencée, qui est hachée, lorsque vous changez plusieurs fois de métier, vous avez des périodes de chômage. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des trimestres qui ne sont pas comptés. Demain, toute cotisation ouvrera des droits à la retraite. Donc, c'est des éléments plutôt positifs. Pour autant, et nous le savons tous, nous n'avons pas tous les éléments de cette réforme, donc c'est extrêmement dur d'adapter, enfin de parler d'une simulation claire entre avant et après.
Mais quand même, vous dites oui, plus ou moins oui, hein, si je vous entends, mais le système à points, il n'y a aucune garantie de pension, on partira plus tard avec moins. Même pour les salariés du privé, ça va être compliqué, ça, puisque ça concerne tous les salariés, les petits patrons qui ont du mal aujourd'hui à joindre les deux bouts. C'est aussi une réalité, ce n'est pas uniquement les fonctionnaires et les salariés du public.
On est bien d'accord, mais est-ce qu'aujourd'hui, dans le système actuel, on a une garantie de pension? Pas plus. Regardez la GIRC-ARCO. C'est la caisse complémentaire obligatoire des salariés. Eh bien, il y a deux ans, les partenaires sociaux ont signé un accord en mettant en place, écoutez-moi bien, l'âge pivot sur les régimes complémentaires de retraite, ce qu'ils n'acceptent pas sur le régime général. Pourquoi? Parce que si on n'avait pas cette mesure de décalage dans le temps de sa prise de retraite, eh bien, il fallait baisser les pensions. Donc aujourd'hui, les pensions ne sont pas plus garanties que demain. Pour autant, il faut raccrocher tout le monde à un principe essentiel que nous connaissons tous, chefs d'entreprise. C'est la réalité.
François Asselin, merci beaucoup d'être venu ce soir à mon micro. Vous avez rencontré Emmanuel Macron tout à l'heure. Vous nous l'avez décrit serein et déterminé. On attend mercredi. Maintenant, les détails avec Édouard Philippe. Merci à vous.
Merci.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy.
Et le débat des grandes voix dans quelques instants. On va revenir sur l'allocution d'Édouard Philippe cet après-midi. Et puis les rendez-vous, les mobilisations à venir mardi, entre autres.
Et on vous attend bien sûr pour interpeller les grandes voix, poser vos questions et réagir en direct au 39-21. C'est sur Europe 1, c'est le standard. Jusqu'à 20h. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Les grandes voix dans une seconde. D'abord Théoman Val pour les dernières infos.
Édouard Philippe présentera mercredi prochain à midi l'intégralité du projet du gouvernement sur les retraites. Le Premier ministre se dit prêt à mettre en place des périodes de transition progressive pour la fin des régimes spéciaux, mais reste ferme sur la disparition programmée de ces régimes. En attendant, la grève se poursuit à la SNCF et dans les transports parisiens. Trafic extrêmement réduit tout le week-end et encore très perturbé lundi à la RATP. 5 TGV sur 6 supprimés ce week-end à la SNCF. La circulation sur les routes est aussi très compliquée ce soir. Près de 600 km de bouchons rien qu'en Ile-de-France. Et puis la 33e édition du Téléthon débute dans un quart d'heure. Pour faire avancer la recherche, le numéro n'a pas changé. 3637 pour envoyer vos dons. Ou évidemment le site téléthon.fr.
Merci Théo, vous revenez tout à l'heure avec de nouvelles infos 19h. Anissa, journée sympa dans le sud demain, sympa
oui.
Donc.
Oui, c'est ça, okay, effectivement. Sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et le littoral méditerranéen, demain le ciel est assez dégagé avec de belles périodes ensoleillées. Si j'insiste là-dessus, c'est qu'il va falloir en profiter parce que le mauvais temps va très vite revenir à partir de dimanche et tout au long de la semaine prochaine. Alors attention dans le sud, hein, tout de même, le Mistral et la Tramontane se lèvent et soufflent demain. En Corse, toujours un ciel variable avec à l'ouest de l'île des averses possibles demain après-midi. Là où ça va un peu moins bien, demain, c'est sur l'Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne, la région lyonnaise, les Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté. La perturbation qui est en train de traverser la France va s'arrêter demain sur ces régions avec des pluies, mais des pluies qui seront plus faibles dans l'après-midi. Les températures, elles remontent un tout petit peu, 2 degrés à Lyon demain, 5 à Saint-Étienne, 7 à Paris, et demain après-midi, il va faire doux quand même, 13 à Nantes et 17 à Toulon.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec le débat des grandes voix.
Et oui, les grandes voix de ce vendredi dans ce studio. Philippe Gouliot, Mickaël Darmon, Marie-Ève Malouine, bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
L'allocution d'Edouard Philippe, la prise de parole, comme ça, 15 minutes. Et puis cette grève hier, cette mobilisation, on débriefe dans un instant. A tout de suite.
Votre grand journal du soir, c'est tous les jours, jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Marie-Ève Malouine, Mickaël Darmon et Philippe Gouillot, ancien correspondant pour l'AFP et le Figaro à l'Élysée.
Et auteur aussi des photos insolites de Charles de Gaulle, co-auteur aux éditions Plomb, entre autres. Merci à tous les trois d'être là dans ce studio. Vous avez écouté Édouard Philippe, 15 minutes, quasiment. 15 minutes comme ça, de manière inopinée ou pas, Marie-Ève Malouine ? On s'y attendait pas ?
Oui, il y a une accélération dans sur la forme et puis sur le contenu. Sur la forme, parce qu'on n'attendait pas cette intervention aussi vite au lendemain de la grande journée de mobilisation, alors qu'on sait que ça va durer ce week-end et lundi. Et puis un changement
sur
le fond et mardi, puisque le Premier ministre va parler mercredi et puis il va donner le détail du projet de loi. Jusque-là, on parlait de l'architecture, ça restait vague et un peu flou. Là, on aura tout le projet. Et on pourra peut-être négocier ou le refuser en bloc, on verra.
Alors qu'est-ce que ça veut dire, Philippe Gouillot, cette prise de parole, ces 15 minutes là comme ça, pour rassurer, s'adresser directement aux manifestants, calmer le jeu, qu'est-ce que ça veut dire?
On est inconfortable. C'est un peu tout ça. Le fait est que le gouvernement et le président de la République prennent acte du fait que la manifestation, la mobilisation d'hier a été importante, sinon imposante.
Ouais. 800 000 personnes, non ?
Oui, quand même, c'est pas rien. Et puis aussi, c'est une façon de dire aux syndicats, eh bien, finalement, vous avez quand même réussi, vous revenez dans le jeu. C'est une façon de les réintroduire. Et ça, à mon avis, c'est important. Alors, ça met le gouvernement dans une situation un peu difficile, mais c'est toujours plus facile, malgré tout, de négocier avec des gens qui savent faire ça, qui ont des objectifs et des sorties de crise. Et c'est finalement peut-être pas une mauvaise chose pour le gouvernement.
Mickaël Darmon, on attend mercredi des choses, mais déjà sur cette façon de s'adresser aux manifestants cet après-midi.
Tout correspond à la scénographie qui a été pensée par le gouvernement. Il s'attendait à une forte mobilisation. En fait, ce à quoi on assiste, c'est que, au fond, le nouveau monde remet l'ancien en selle. C'est-à-dire que tout ce à quoi on assiste depuis quelques jours est extrêmement classique dans la négociation, dans la mobilisation, dans le fait de laisser la démocratie sociale s'exprimer, puis ensuite de dire « mais on a encore du grain à moudre, et puis vous allez voir, on va faire des annonces ». Et donc tout ça est d'un grand classicisme que le Nouveau Monde avait dit...
Avait écarté, c'est terminé,
on va refaire l'année d'ode, on va tout changer. En clair, on assiste effectivement à cette période où on veut fermer la période des gilets jaunes. Et puis, il ne faut quand même pas oublier, c'est vrai qu'il y a eu du monde dans la rue, mais enfin, ce ne sont que les bénéficiaires des régimes spéciaux. Les 80% des Français qui sont sur le régime universel ne sont pas dans la rue.
Attendez.
Et ça, c'est très important pour le gouvernement
qui a bien compris
que la CFDT ne bouge pas.
Les enseignants, ce n'est pas du tout
les régimes spéciaux, les personnels hospitaliers.
Ils vont avoir des mesures qui vont les compenser.
Ils n'y croyaient pas. Et là, la parole du Premier ministre, c'est de dire si vous pouvez y croire, parce qu'on va se mettre autour de la table et peut-être qu'on va l'inscrire dans le marbre, mais ce n'est pas uniquement que les régimes spéciaux. Et d'ailleurs, sur les régimes spéciaux, il y a quand même une avancée en disant qu'effectivement, ce ne serait pas juste, ce ne serait pas acceptable que ça s'applique tout de suite à des gens qui n'ont pas signé pour ça quand ils sont rentrés à la SNCF.
Ça, c'est la fameuse grand-père qui est déjà sur la table depuis déjà
plusieurs jours. Non, elle avait été écartée. Elle avait été écartée. Et là, elle revient.
Sous une forme différente et sous une forme honnêtement plus intelligente.
Il y a un flou qui a été entretenu. Il y a un flou qui a été entretenu. Mais pour permettre, je pense, à la mobilisation de se faire. Et de manière ensuite
vous
à ce que le gouvernement,
que le gouvernement a voulu que la mobilisation se fasse. C'était pas
pour
permettre qu'elle se fasse.
On ne peut pas exclure qu'il ait voulu purger l'abcès, crever l'abcès.
Mais c'est pas qu'il a voulu le faire, c'est qu'il était obligé. S'il n'avait pas bougé, oui, il partait dans un mouvement, tout le monde dit. Et vous
le
voyez
flou
les
était organisé, je pense, pour permettre aussi à ce que la mobilisation soit, et ce qu'elle est d'ailleurs, au fond, massive et intéressante et importante. Moi, ce qui me frappe, c'est que Philippe n'arrête pas de remercier les syndicats. C'est quand même.
Mais c'est ça, voilà, mais parce que ça s'appelle du en même temps,
enfin,
ça.
Les syndicats
qu'est-ce
sont
qu'on
revenus.
Fait de ça parce
y compris
enfin,
les services d'ordre, d'avoir maintenu l'ordre hier.
Bien entendu. Ces syndicats qui reviennent dans le jeu, c'est quoi? C'est aussi une démonstration de force. C'est aussi une manière de dire bah voilà, on est là, on existe. Ils ont repris du poil de la bête, considérablement.
Oui, Marie-Ève Malouy. Surtout après les Gilets jaunes, quand. Michael dit qu'on réinvente la politique classique. C'est vrai qu'on l'a vu avec les Gilets jaunes faire des manifestations qui ne sont pas déclarées, sans service d'ordre. On a vu ce que ça donnait quand les Black Blocs venaient. Là, on a eu des Black Blocs qui ont voulu venir. Il y avait les forces de sécurité et il y avait aussi l'organisation des syndicats qui a pu s'exercer et contenir cette intervention. Ouais. Et puis les syndicats, ça permet de pouvoir négocier avec des interlocuteurs qui sont... dans le même langage, qui sont dans le même registre, qui connaissent les règles. Alors après, ils ne sont pas tous d'accord dans l'intersyndicale. Mais ça permet de remettre du monde autour de la table.
L'idée, c'est de mettre du monde effectivement autour de la table, de mettre du monde du bon côté de la table aussi, surtout, évidemment, avec ce qui va être annoncé mercredi à midi. Est-ce qu'on a une petite idée? Parce qu'effectivement, on parlait d'architecture jusqu'à hier après-midi. Aujourd'hui, il semble plus précis. Il dit que, clairement, on aura le projet mercredi.
Il semble que ce soit... On va jouer sur cette fameuse transition progressive, c'est-à-dire
les dates.
Les dates.
Non plus 63, mais 73.
Voilà. Donc voilà, c'est ça. C'est savoir à quel moment s'appliqueront toutes ces nouvelles règles, à quel moment on entrera effectivement dans la réforme, sans la renvoyer au calendrier grec, sans l'enterrer. Et là, évidemment, le gouvernement doit jouer serré quand même, parce que renvoyer trop loin et la clause de grand-père, ça permettait peut-être de dire on le fait ou on le fait pas, on le fera pas. Enfin, ça permettait d'enterrer les choses sans le dire.
Alors, que va dire Édouard Philippe mercredi, évidemment, aux Français, aux manifestants, aux syndicats? Michael Darmon, vous avez des éléments, vous nous les livrez dans un petit instant, c'est du teasing.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir et c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et le débat des grandes voix jusqu'à 19h ce soir. Marie-Ève Malouin, Michael Darmon et bien sûr Philippe Gouillot, ancien correspondant pour l'AFP et le Figaro à l'Élysée.
Et on se retrouve évidemment... tiens, on va écouter Édouard Philippe, si vous le voulez bien. Édouard Philippe, tout à l'heure, qui prend la parole, 15 minutes, c'était pas prévu. On a regardé, évidemment, avec vous, ce que ça traduisait, les grandes voix. On va voir ce qu'il peut nous annoncer mercredi.
Nos concitoyens savent que la très grande diversité des 42 régimes de retraite actuels ne peut pas perdurer. Ils savent qu'il faudra un jour renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même... qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps.
Je dis rien, je fais que les choses sympathiques.
Vous dites rien, mais là, c'est le moment de dire. Michael Darmon, le micro est ouvert. Alors allons-y. Mercredi, maintenant, on a une date. Mercredi. Midi, on a un horaire. On sait que Édouard Philippe dévoilera le projet. C'est plus l'architecture, comme le mot évidemment employé hier, mais désormais, le projet. Qu'est-ce qu'on peut attendre mercredi?
Dans l'intégralité du projet qui va être dévoilé, ce qu'on va bien sûr comprendre, c'est qu'à la fois, il y a la volonté de faire cette fameuse réforme avec les mesures d'âge et les réformes économiques des retraites, et puis bien entendu la réforme du système universel avec la mise à égalité de tous les régimes. Alors bien évidemment, les régimes spéciaux vont être réformés avec des mesures de transition, hein, ça c'est déjà donc effectivement plus qu'annoncé. La garantie des retraites qui ne seront jamais en dessous de 1000 euros devrait être encore donc présenté et bien sûr confirmé. Il y aura aussi bien sûr d'autres réformes, d'autres régimes, d'autres annonces concernant les enseignants, le personnel soignant,
les policiers.
Ça a déjà été plus ou moins annoncé. C'était pas simple pour les personnels des scolaires, parce qu'il a fallu convaincre Jean-Michel Blanquer, qui encore il y a quelques jours considérait qu'il était plus ministre de l'éducation que ministre des profs, Il a fallu quand même le mettre dans la machine. C'est aussi ce qui explique pourquoi ça a pris quelques jours de
mais,
plus.
Mais tout ça, je ne sais pas, moi j'appelle ça des concessions. Non, qu'est-ce que vous, comment vous appelez ça, vous, Philippe Gouillot, Marie-Ève Malouine? C'est une manière de continuer les régimes spéciaux, du coup, non?
Mais on va voir, justement, c'est là que ça va être très intéressant de voir ce que pourra annoncer Édouard Philippe. Des concessions dans un mouvement social,
on en fait toujours. C'est un message obligé.
Le tout, c'est que dans l'ancien monde, souvent, les concessions se traduisaient purement et simplement par un abandon du texte. Là, on va voir, le texte n'existait pas, enfin, il n'était pas finalisé, on va nous le présenter et on va voir si, effectivement, il a conservé un peu de souffle, un peu d'énergie.
Un peu de grain
à moudre. Il y a aussi quelque chose, sans doute, qu'il pourrait annoncer, c'est le fait que la valeur du point sera établie de façon paritaire. Donc, c'est aussi un petit cadeau, quand même, aux partenaires sociaux.
Bah oui.
Mais
oui.
C'est de bonne guerre.
Ah oui, Marie-Ève Malouine, c'est ce qu'avaient les syndicats depuis le début du mouvement. Et Gérald Darmanin l'avait lancé comme hypothèse. Et puis, ça peut être des calculs financiers intéressants, puisqu'il y avait eu un rapport de Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF en 2017, qui disait que si on appliquait la réforme tout de suite pour les cheminots, ça coûterait beaucoup plus d'argent que si elle était progressive pour les nouveaux entrants. Et donc, ce calcul-là demande à être réaffiné. Et ça peut être intéressant et économiquement et politiquement, puisque ça dit aux cheminots, ça ne touchera que ceux qui arriveront après.
Alors, est-ce que ces concessions sont de nature à calmer le jeu? On va se le dire dans un petit instant. Philippe nous écoute depuis Paris et nous a appelé au 3921. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Bienvenue au micro d'Europe 1. Je crois que vous êtes fonctionnaire pour le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire?
Je travaille dans une préfecture.
D'accord.
En l'occurrence, la Seine-Saint-Denis. Et donc, des appels à la grève ont été lancés un peu partout par les organisations syndicales CGT, FO, FSU, Sud. Hein. Et donc, on découvre aujourd'hui que M. Philippe va nous sortir le projet complet mercredi, suite au grand mouvement d'hier qui a rassemblé quasiment 1 million de personnes dans la rue. Et encore,
Et vous dites, vous dites quoi? J'attends de voir ce qu'il y a dedans.
Sur le fond, apparemment, Macron ne recule pas. Il l'a dit, je serai inflexible.
Et donc, vous dites quoi?
Ça veut dire que sur le fond, pour l'instant, il faut continuer la lutte. Ah. Et je pense que l'initiative de mardi est une très bonne chose. Et qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de monde public, privé, qui soit dans la rue.
Il faut continuer la lutte, en tout cas.
Tout le monde est concerné par cette réforme.
Merci Philippe de nous avoir appelé depuis Paris. Il faut continuer la lutte, nous dit Philippe. Et il n'est pas tout seul, il y en a plus d'un qui dit aujourd'hui il faut continuer la lutte. Michaël Darmon, même s'il y a des concessions qui sont faites, même s'il y a des éléments probants, enfin des éléments concrets qui sont formulés mercredi, on a entendu Jean-Luc Mélenchon.
Oui,
ils n'ont pas dit leur dernier mot.
Alors moi, je pense qu'il y a un terme qui est en train de s'installer. On l'entend. Hein, voilà, on le répète. C'est maintenant le terme concession. Et moi, je pense que ce ne sont pas des concessions, parce que des concessions, ce sont au fond des mesures qui n'avaient pas été prévues, mais qui sous la pression apparaissent. En réalité, tout est déjà prêt. Mais simplement, on est, je pense, vraiment dans une scénographie politique et qui était très importante pour l'exécutif, qu'elle se déroule de la manière dont elle se déroule. Et une fois de plus, on entend à quel point ils sont satisfaits.
S'il a cette scénographie, ça veut dire qu'il a aussi...
Des soutiens. Cet après-midi, par exemple, le patronat a été reçu par le président Macron. Il y a la CFDT, une fois de plus, qui, malgré la liberté qu'elle donne à ses adhérents et à certaines fédérations, reste quand même majoritairement du côté du projet.
Donc, et François Asselin de la CPME nous disait aussi...
Franchement, on n'est pas dans une situation où le pouvoir est autant en difficulté que certains veulent bien le dire.
Quelle est la lecture de Marie-Ève Malouine et de Philippe Gouillot? Vous nous dites ça juste après.
La suite du débat des grandes voix, c'est jusqu'à 19h. C'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec le débat des grandes voix jusqu'à 19h. Autour de vous, Nathalie Lévy ce soir, Marie-Ève Malouine, Michaël Darmon et Philippe Gouillot, ancien correspondant pour l'AFP et Figaro à l'Élysée.
Alors, on aura mercredi des éléments concrets dans la bouche d'Édouard Philippe à midi sur ce projet, cette réforme des retraites. Michaël Darmon nous disait à l'instant que finalement c'est cette scénographie envisagée par le gouvernement dès le début. On laisse dérouler les manifestations, on parle après, on a été flou, on va être plus concret mercredi. Marie-Ève Malouine, si on a une scénographie, ça veut dire qu'on a prévu la fin et donc que tout se termine bien.
C'est une façon, on peut voir les choses comme ça si à la fin le gouvernement arrive à s'en sortir. Et c'est pas impossible. Mais en même temps, des concessions qui sont faites, il y a des choses, on se dit à quoi ça a servi de ne pas répondre pendant aussi longtemps pour avoir autant de gens qui manifestent avec un danger de violence, avec des dégâts quand même qui sont toujours assez négatifs. Et ça dépend de quel point de vue on se place. Ceux qui ont manifesté sur le retrait de la réforme des retraites par points et des régimes spéciaux, ils n'y arriveront pas. En revanche, ceux qui veulent négocier avec un peu plus de poids dans le rapport de force sur la retraite par répartition, on va être obligé de leur faire certaines concessions. Pourquoi ne pas avoir dit plus tôt que les partenaires sociaux seraient autour de la table pour fixer la valeur du point ? C'est ce qui est dans l'air, c'est ce qu'a dit Gérald Darmanin aussi et ce qui devrait se confirmer. Donc, il y a un peu de temps perdu si c'est de la scénographie. Mais c'est vrai, dans ce que dit Michaël Garmont, que le gouvernement peut s'en sortir s'il arrive à reporter un petit peu le débat sur les régimes spéciaux et faire baisser la tension et à négocier vraiment sur la retraite par répartition et ouvrir le débat pour dire qu'est-ce qu'il y a vraiment dans la retraite par répartition, alors que maintenant, il y a les pour, il y a les contre. On ne sait pas trop pourquoi, finalement.
Philippe Gouillot.
Oui, c'est peut-être une scénographie et il est possible que ça se termine bien pour le gouvernement. Mais je trouve quand même que c'est une prise de risque majeure.
C'est
parce
ça,
que
c'est
dans les manifestations, on ne sait jamais très bien ce qui peut se passer.
Surtout
et au contraire,
un an après, avec les gilets jaunes
que ça peut être très violent et il n'y a pas si longtemps. Donc je trouve que ça serait une prise de risque majeure. Et puis quand même, il y a eu aussi quelque chose qui a sauté aux yeux, c'est que il y a eu beaucoup de cafouillages dans l'expression du gouvernement, beaucoup de couacs, comme on disait du temps de François Hollande. Et ça affaiblit quand même le travail d'une équipe. Ça affaiblit une équipe. Alors cela dit, ça peut être aussi, après tout, on a parlé de l'acte 2. L'acte 2 peut se traduire par des changements de portefeuille, un remaniement ministériel. Et voilà, ça c'est possible aussi. Ce qui me frappe moi quand même, c'est que je trouve que Édouard Philippe dans cette affaire a acquis beaucoup de poids et d'autorité et de puissance même,
c'est
je dirais.
Intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, Michaël Darmon, c'est lui qui est monté en première ligne là depuis ces derniers jours, voire deux dernières semaines. On voit qu'Emmanuel Macron l'a vraiment utilisé, l'a mis au premier plan.
Oui, je dirais que bien sûr, et de fait, il est maintenant en première ligne et ça lui donne à la fois une exposition et peut-être une densité politique encore supplémentaire. Mais c'est sur la décision du président de la République. C'est-à-dire qu'effectivement, l'année dernière, à la même époque, c'était Emmanuel Macron avec une figure blême qui était à la télévision et qui lâchait 10 milliards en 10 minutes pour pouvoir calmer la colère des Gilets jaunes. Et aujourd'hui, c'est le Premier ministre qui vient, qui régulièrement fait des points presse, annonce l'agenda, quand est-ce qu'on va faire les annonces. Ce qui est intéressant, c'est que on disait la prise de risque. Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier, c'est un joueur.
Absolument.
Il déconcerte même ses équipes au point de toujours, parfois même changer de pied et sans vraiment rien leur dire. Moi, ce qu'on racontait, c'est qu'autour de la table du séminaire de dimanche gouvernemental, même les ministres concernés n'avaient pas d'éléments parce que c'est lui vraiment qui décide de tout. Et à la fin, effectivement, il abat ses cartes. Et la prise de risque, c'est que la contestation anti-Macron prenne plus d'importance que la mobilisation contre les retraites.
Francis, jeu, il y a quand même quelque chose, c'est qu'à un certain moment, il faut ramasser la mise et pas continuer à jouer.
Voilà. Alors Francis nous appelle de Nancy. Bonsoir Francis.
Bonsoir Nathalie, bonsoir les grandes voix.
Bienvenue, vous êtes prof, hein, Francis. Vous avez manifesté hier
Oui, j'ai manifesté hier. Et en me promenant parce que je ne reste jamais au même endroit dans une manifestation, je me promène, je discute avec les différentes personnes qui étaient là, et en fait, le problème des retraites est un problème assez marginal. C'est un dégoût de cette société qu'on propose. C'est des revendications qui concernent les moyens, rarement les salaires. J'ai été discuté avec les infirmières de l'hôpital. J'ai été discuté avec des aides-soignantes. J'ai été discuté avec des pompiers. Donc, je me suis promené et discuté avec les gens pendant 3 heures. Et en fait, on se rend compte que c'est un problème bien plus profond. Que celui de la simple retraite, pour laquelle, il faut le préciser, chaque gouvernement qui réforme de manière régressive les retraites, parce que c'est une régression systématique, c'est une preuve, c'est un aveu d'incompétence à créer de l'emploi dans le pays, parce que sinon on aurait des cotisations. Si on avait de l'emploi, on aurait des cotisations. Si on avait des cotisations, on aurait un équilibre des systèmes. Donc en fait, à chaque fois qu'on modifie le système de retraite, on nous dit nous ne savons pas créer de l'emploi dans le pays.
Merci Francis, c'est intéressant ce que vous nous dites, Francis, depuis Nancy. Un tour de table rapide parce qu'on va conclure. Michael Darmon, il a raison Francis. Finalement, les retraites, c'était la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase là.
Alors ça, on verra ça dans quelques jours, mais c'est vrai que cette remarque est importante parce qu'elle prolonge effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que ce sera une contestation anti-Macron globale ou est-ce que ce sera uniquement sur les retraites? Il y a d'autres mèches longues, hein, le gazole non routier, la crise à l'hôpital qui n'est pas réglée. Et on verra dans quelle mesure ça peut continuer à alimenter la contestation ou pas.
Il y a une crise qui est montante, qui ne s'est pas encore coagulée, mais c'est au sein du service public qui est la perte de sens de la mission des agents de service public, que ce soit les enseignants, les personnels médicaux, les policiers, les pompiers. Ils disent tous qu'ils se demandent à quoi sert leur mission s'ils n'ont pas les moyens de la faire. Et ça, c'est un feu qui couve sous la braise et qui est très important et qui n'est pas plus anti-Macron qu'un autre. Il est anti-responsable politique.
Philippe Gouillot ?
Oui, et c'est pour ça que c'est toujours très risqué ce genre de période pour les hommes politiques, parce qu'il y a quand même aussi le discrédit de la classe politique qui frappe à peu près tout le monde. Et donc, il faut qu'à un moment donné, certaines personnes... dans l'exécutif apparaissent comme solides et compétents.
Alors on verra ça. Réponse déjà, première étape mardi avec une nouvelle journée de grève et de mobilisation. Et puis mercredi, midi, des éléments concrets autour de cette réforme des retraites dans la bouche d'Edouard Philippe. Merci beaucoup les grandes voix.
Merci.
Merci. Merci.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Dans un instant, le journal de Théo Manval à la une ce soir. Une circulation épouvantable hein, en Ile-de-France, on vous dit tout.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy et c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h, c'est votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. Et au programme, Nathalie, de la prochaine heure ?
L'invité politique, 19h10, notez bien Rachida Dati dans ce studio, la maire du 7e arrondissement de Paris, candidate Les Républicains à la mairie de la capitale. 19h20, spécial COP25 ce soir aussi, sur les 5 continents. On y est allé, Europe 1, direction les Alpes ce soir pour observer concrètement les enjeux du changement climatique. Et 19h30, on sourit, c'est le week-end, la semaine a été chargée. Anne Roumanoff sera à nos côtés jusqu'à 20h. Elle revient sur les planches de l'Olympia le 18 décembre prochain. Pour son spectacle. Tout va bien. Bah oui, tout va bien.
Et vous pouvez parler à Anne Roumanoff et lui poser toutes vos questions. Ça se passe dès maintenant au 39-21. Théo Manval et Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Pour moi, c'est la galère. J'habite juste à sortie de périph. Ça fait 2 heures que je suis bloqué. Ouais.
Près de 600 km de bouchons sur les routes d'Île-de-France. Répercussions sur le trafic routier, des perturbations dans les transports. Et ça va se poursuivre. Les syndicats appellent à une nouvelle journée de grève et de manifestation pour mardi.
Et ce, malgré les tentatives du gouvernement d'apaiser la situation. Édouard Philippe a pris la parole 15 minutes cet après-midi. Il présentera son projet de réforme sur les retraites en intégralité mercredi à midi.
Train, métro, voiture, on fait le point dans ce journal sur toutes les prévisions pour vos déplacements du week-end et du début de semaine. Avec Aurélien Fleureau. Et puis on ira à Madrid où une nouvelle marche pour le climat est en cours en marge de la COP25. Marche emmenée par la jeune activiste suédoise Greta Thunberg.
La tendance météo, c'est Anissa.
Demain, samedi, sera la dernière journée calme. Du soleil dans le sud, de la pluie sur quelques régions et des nuages au nord. Plus de précisions à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Théo Manval.
C'est un cumul que l'on atteint d'habitude en période de tempête de neige ou de départ en vacances. Près de 600 km de bouchons cumulés sur les routes en Ile-de-France ce soir. Contrairement à hier, les travailleurs franciliens semblent avoir moins opté pour le télétravail et plus pour la voiture pour venir au bureau ce matin avec la grève dans les transports. Et résultat, on roule pare-choc contre pare-choc. Victor Dolande, vous êtes porte de Saint-Ouen sur le périphérique pour quitter Paris.
Oui, sur les deux axes intérieurs et extérieurs du périphérique, la circulation est très compliquée avec à chaque fois le même schéma, une circulation en accordéon entre les portes et dès qu'on s'approche d'une porte, les voitures sont à l'arrêt. Aziz est rentré de Nice en avion cet après-midi, mais le chemin depuis l'aéroport est très très long.
Pour moi, c'est la galère parce que j'ai atterri à 16h, là il est 18h05, je ne suis pas rentré encore chez moi. J'habite juste à sortie de périph. Ça fait 2 heures que je suis bloqué, ouais.
Michel, lui, est bloqué sur le périphérique depuis près de 2 heures. S'il comprend les grèves et les revendications des manifestants, il ne croit pas vraiment à une issue positive de ce conflit.
C'est une catastrophe, on a mis déjà plus de 2 heures pour venir de Besançon ici.
Alors que normalement, il faut ?
Il faut 1 heure à peine. À peine 1 heure, donc le double, et c'est de pire en pire. Toutes les causes sont défendables, mais quand on a affaire à un mur en face, c'est compliqué aussi.
Dans ces bouchons, il y a toujours deux camps, les automobilistes qui klaxonnent et qui s'énervent d'un côté et de l'autre, ceux qui le prennent, Théo, avec beaucoup plus de philosophie.
Et vous, vous êtes dans quel camp, Victor? Parce que je crois que vous êtes coincé aussi dans les bouchons.
Oh, oui, oui, je le prends avec philosophie.
Avec philosophie. Victor Dolande en direct de la porte de Saint-Ouen pour Europe 1.
Il en faut de la philosophie puisque la grève se poursuit donc dans les transports. La SNCF prévoit un TGV sur 6 seulement en circulation demain. Trafic toujours extrêmement perturbé à la RATP aussi jusqu'à lundi inclus. Édouard Philippe, le Premier ministre, a pris la parole cet après-midi pour tenter de calmer la colère.
Et donner un calendrier. Il présentera l'intégralité de son projet sur les retraites mercredi prochain à midi. Ma logique ne sera jamais celle de la confrontation, dit le Premier ministre, qui se dit prêt à mettre en place des périodes de transition pour la mise en place de sa réforme, mais qui ne recule pas sur la suppression à venir des régimes spéciaux.
Nos concitoyens savent que la très grande diversité des 42 régimes de retraite actuels ne peut pas perdurer. Ils savent qu'il faudra un jour renoncer à des régimes spéciaux qui ne sont plus compris. Ils savent même qu'au fur et à mesure, nous allons devoir travailler un peu plus longtemps.
Édouard Philippe, lors de son allocution télévisée cet après-midi, même pas de quoi convaincre les syndicats qui ont décidé ce matin d'une nouvelle journée d'action et de manifestation partout en France. Ce sera mardi prochain. Écoutez ce cheminot normand, plus remonté que jamais.
Je pense que le gouvernement, aujourd'hui, il essaye de nous faire durer, effectivement, mais après, c'est à nous de montrer qu'on est fort, qu'on est puissant. On a reconduit jusqu'à lundi. La mobilisation va être suivie. Et en plus, on a fait les inscriptions pour faire des piquets de grève. Et on espère qu'on sera nombreux la semaine prochaine de tous les métiers, du privé, du public, partout, à combattre cette réforme injuste. Ce n'est pas une grève des cheminots de la RATP, c'est une grève de tout le monde. Le système à un point, il concerne tout le monde.
Guillaume, conducteur de train à Caen, à votre micro. Aurélien Fleuron, on va faire le point avec vous, Aurélien, sur les prévisions de trafic pour les jours qui viennent, puisque la grève est reconduite au moins jusqu'à lundi, manifestation mardi. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre pour ce week-end sur les rails et dans les airs?
Alors, du côté de la SNCF et de la RATP, rien ne change. Hein. Trafic très perturbé samedi et dimanche, comptez un TGV sur 6 en moyenne. Alors les chanceux qui n'ont pas encore reçu de message d'annulation de leur train peuvent se présenter en gare. Circulation anecdotique sur les réseaux Intercités et TER avec par exemple une circulation quasi nulle demain en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. Renseignez-vous bien sur les différents sites de la SNCF pour connaître les quelques horaires maintenus. Et puis en Ile-de-France, 9 lignes de métro resteront fermées. L'effort sera concentré ce week-end sur la période 13h-18h, notamment sur les RER A et B ainsi que sur les lignes 4 et 7. Une bonne nouvelle, enfin, dans le secteur aérien, la DGAC a fait savoir cet après-midi qu'aucun vol ne serait annulé samedi. Air France, par exemple, annonce que tous les vols prévus seront assurés. Quelques retards ou perturbations restent cependant possibles.
Merci beaucoup Aurélien Fleuron.
Europe 1, il est 19h05, la suite du journal. Théo Manval, Nathalie Lévy. Au volet judiciaire, verdict attendu ce soir aux assises de la Somme dans le procès du meurtre d'Élodie Kulik.
L'avocate générale a requis 30 ans de prison ce matin à l'encontre de Willy Bardon pour enlèvement et séquestration suivi de la mort de la jeune banquière en janvier 2002. Willy Bardon a à nouveau clamé son innocence après les plaidoiries de ses avocats. Le jury s'est retiré pour délibérer.
François Bayrou, toujours entendu par les juges au tribunal de Paris dans l'enquête sur les assistants parlementaires du Modem au Parlement européen. Audition qui pourrait déboucher dans les heures à venir sur une mise en examen.
À l'étranger, c'est une première pour un chef de gouvernement allemand depuis près de 25 ans. Angela Merkel s'est rendue à Auschwitz cet après-midi. L'ancien camp nazi situé en Pologne est symbole à jamais de l'horreur de la Shoah. Le souvenir des crimes nazis est une responsabilité qui ne s'arrête jamais. C'est inséparable de notre pays, a martelé sur place la chancelière.
Tandis qu'à Madrid, des milliers de manifestants défile en ce moment dans les rues derrière qui la jeune activiste suédoise Greta Thunberg.
Et des rues prises d'assaut par les militants pour le climat. Henri de Laguérie, vous êtes sur place. Ils veulent faire pression sur les pays qui participent actuellement à la COP25 dans la capitale espagnole.
Oui, cette manifestation convoquée par les jeunes réunit en fait ici toutes les générations et c'est la première fois qu'on assiste à une vraie mobilisation pour le climat. L'Espagne n'était jusqu'à présent pas aussi sensible au sujet que les pays du nord de l'Europe. Parmi les slogans qu'on peut lire, Trump, salaud, réduit les émissions. La jeune activiste Greta Thunberg est en tête du cortège. La Suédoise a tenu à répondre à ses détracteurs.
Il y a des gens qui veulent que tout reste en l'état. Le changement les inquiète. Or justement, nous les jeunes, nous apportons ce changement. C'est pour cela qu'ils veulent nous faire taire.
Et beaucoup ici sont aussi venus pour voir celle qui est devenue le symbole de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour Rebecca, française installée à Madrid, la présence de Greta Thunberg donne de la force au mouvement.
Elle est devenue une voix audible partout dans le monde, en fait. Et donc le fait qu'elle soit là, eh ben, ça attire les médias, l'attention des médias. Donc les cris que l'on pousse sont plus entendus grâce à sa présence.
Alors malgré la détermination des manifestants, tous sont lucides. Ils craignent que cette COP25 ne soit pas à la hauteur des enjeux.
Merci beaucoup Henri de Laguerre, correspondant d'Europe 1 en ligne de Madrid. Le jeune adolescent britannique accusé d'avoir poussé un garçon français âgé de 6 ans du haut du Tate Museum à Londres, c'était au mois d'août dernier. Cet adolescent a plaidé coupable de tentative de meurtre lors de sa comparution devant la justice britannique cet après-midi. Le garçon blessé grièvement avait fait une chute de 30 mètres. Le jugement doit être rendu le 17 février prochain.
On va conclure avec les sports, Théo, et un retour réussi en natation pour Florent Manoudou en équipe de France.
Première compétition sous les couleurs tricolores depuis plus de 3 ans et sa tentative pas vraiment réussie, elle, de reconversion dans le handball. Florent Manoudou s'est qualifié ce soir pour la finale du 50 mètres nage libre avec le 4e temps des demi-finales. Cette finale sera à suivre peu après 20h. Et puis il y a du foot. Début en ce moment de la 17e journée de Ligue 1. Le match vient de débuter entre Brest et Lille, 0-0 après 9 minutes de jeu. Nîmes recevra Lyon tout à l'heure, coup d'envoi à 20h45.
Merci Théo, votre retour pour de nouvelles fois à 19h30. Anissa, du côté du temps, ça s'annonce agréable dans le sud demain.
Oui, et il va falloir en profiter parce que alors, les jours qui arrivent vont être très arrosés sur toute la France. Alors demain, sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon, la région PACA, après la dissipation des nuages bas, du début de journée, hein, le ciel va très vite se dégager avec de belles éclaircies dans l'après-midi. Sur la Corse, le ciel est encore chargé, un ciel nuageux avec même sur l'ouest de l'île des averses possibles, hein, demain dans l'après-midi et toujours sur le Cap Corse. Ce vent d'ouest qui souffle demain jusqu'à 80 km/h. Plus au nord, de la Bretagne aux Hauts-de-France, des Pays de la Loire jusqu'à la région parisienne, là le temps reste sec avec quelques apparitions du soleil dans la journée, mais ce sont quand même les nuages qui prédominent. Et puis en fait, entre ces deux zones, de la Gironde aux Ardennes, du Pays Basque aux Alpes, donc vraiment sur une bande diagonale au milieu de la France, et bien là, le pays est traversé depuis aujourd'hui par une perturbation et c'est là que vous aurez le plus de pluie. Demain, des pluies qui vont s'atténuer au fil de la journée. Les températures, 0 à Manosque, 2 à Aurillac et Grenoble demain matin, 4 à Toulouse et 7 pour débuter la journée à Paris.
Europe 1.
Votre grand journal du soir, c'est avec vous Nathalie Lévy.
Et avec Aurélie Herbemont pour l'interview politique. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Nathalie.
Qui s'installe dans ce studio dans quelques instants?
Rachida Dati, candidate LR aux élections municipales à Paris. On va parler des retraites, de la grève et des élections dans la capitale.
Et l'interview politique d'Aurélie Herbemont, c'est dans un instant dans votre grand journal du soir. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy, c'est l'heure de l'interview politique.
Avec Aurélie Herbemont et votre invité ce soir dans ce studio, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris, candidate Les Républicains à la mairie de la capitale.
Bonsoir Rachida Dati.
Bonsoir.
Le Premier ministre va dévoiler la réforme des retraites mercredi à midi. Vous dites enfin, il est temps?
Moi je dis il est temps de la dévoiler, mais il est temps aussi de la clarté après avoir quand même... le pays est fortement fracturé, il est quand même fortement divisé. Que tout le monde s'accorde à dire, mais même, je vois même certains sondages où les Français sont d'accord pour qu'on puisse réformer le système des retraites, parce que tout le monde souhaite qu'on préserve ce système par répartition, qui est un système qui est dans l'intérêt de tous. Et donc, pour le sauver, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réforme qui est mise sur la table, en fait, c'est la réforme Juppé.
C'est-à-dire
qui avait été inachevé, c'est de dire il faut supprimer les régimes spéciaux et puis avoir un régime unique. Mais au lieu de faire brutalement de dire plus de régimes spéciaux et régime unique, moi je pense qu'il fallait faire une convergence des régimes, discuter secteur par secteur au lieu d'opposer les secteurs les uns aux autres. Parce qu'aujourd'hui on a réglé à peu près les agriculteurs, on dit on va régler les instituteurs, les enseignants, comme si on voulait opposer des catégories aux autres catégories. Je trouve que c'est pas forcément la bonne méthode.
Vous trouvez qu'ils opposent les catégories les unes aux autres, contre les régimes spéciaux?
Regardez, contre les régimes spéciaux, mais même les régimes, regardez les régimes des professions libérales. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contre de cotiser, ne sont pas contre de contribuer, mais on cotise pour qui, en faveur de qui?
En faveur de qui ?
Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de clarté sur cette réforme.
Il n'y a pas de clarté. En même temps, le Premier ministre le dit, on va pouvoir faire des périodes de transition. Il essaye de dire qu'il n'y aura pas de brutalité. Ça n'a pas l'air de faire redescendre la mobilisation. Les transports, les écoles vont encore être bloquées la semaine prochaine. Vous pensez que les Français peuvent supporter ça pendant combien de temps ?
Moi, si vous prenez, pardon de ramener aussi ça au cas parisien, parce que l'essentiel des manifestations ont lieu à Paris, mais quand on voit que pendant un an, les Parisiens ont souffert des manifestations, les commerçants...
Des gilets jaunes.
Oui, mais je ne vous parle même pas des commerçants. Et vous rajoutez à cela, en cette période de fin d'année où la plupart des commerçants font l'essentiel de leur chiffre d'affaires. Les Parisiens préparent aussi ces fêtes de fin d'année. On ne peut pas avoir un pays divisé et bloqué. Donc il faudra bien trouver une solution pour sortir de cette situation bloquée.
Situation bloquée, vous pensez que ça peut se débloquer à la faveur des annonces du Premier ministre ou ça peut faire en sorte que le mouvement dure ?
Mais ça dépendra de ce qu'il y a sur la table. Vous savez, moi, je pense qu'il y a un petit peu le phénomène de la réforme honteuse. Je pense qu'ils savent, ils savent très bien que c'est la réforme, je vous dis, des années 95, la suppression des régimes. Et je pense qu'ils n'osent pas vraiment dire la totalité de ce qu'ils ont, ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, comme ils ont là un peu la réforme honteuse, ça crée forcément et du flou et de l'anxiété.
Alors vous dites qu'ils ont la réforme honteuse. La suppression des régimes spéciaux, c'est quelque chose que la droite, vous devriez
bien
soutenir.
Mais on y a été favorable, puisque...
la droite ne soutient pas vraiment le gouvernement.
Sur la méthode. Et sur le manque de clarté. Aussi. Et sur les contributions. Tout ça n'est pas très clair. Et par rapport au secteur. Là, on dit, on va préserver les policiers, puisque Christophe Castaner a fait une annonce dans ce sens, qu'on va préserver les instituteurs, c'est-à-dire qu'on va déjà leur augmenter leur salaire avant. Donc ils reconnaissent que le régime qui était proposé risquait de leur faire baisser leur pension de retraite. Sur les agriculteurs, on dit que c'est à peu près réglé. Donc c'est vraiment fait, c'est fait un peu en dépit du bon sens.
Fait en dépit du bon sens, manque de clarté. En même temps, on voit un sondage aujourd'hui qui dit qu'Emmanuel Macron prend 18 points d'opinion favorable dans l'électorat LR. C'est peut-être l'effet promesse de suppression des régimes spéciaux. Ça vous inquiète que le chef de l'État continue à mordre sur votre électorat ?
Est-ce qu'il incarne la droite ? Quand vous voyez l'état du pays, avec une montée de la délinquance, avec une augmentation des déficits, une non-réduction des dépenses publiques, c'est pas l'ADN de la droite. Donc voilà, qu'il puisse, sur cette réforme des retraites, sur l'objectif, on était d'accord. D'ailleurs, au départ, quand elle a été présentée, je ne crois pas que ma famille politique s'y soit opposée. J'ai entendu, en l'occurrence, Éric Woerth, qui, effectivement, est responsable pour notre famille politique sur ces sujets-là. On était favorable. Sur la méthode, on l'est beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas de clarté. On ne sait pas où on va. Et donc, ce flou génère de l'insécurité et génère de la violence. Et on l'a vu encore hier.
Oui, encore des heurts en marge des manifestations. Parlons des municipales à Paris, Rachida Dati, puisque vous êtes candidate LR pour ce scrutin de mars. En début de semaine, vous avez rencontré Cédric Villani, candidat dissident de La République En Marche. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé ?
Non, mais il a demandé à me voir. D'abord, il m'avait félicité pour mon investiture et il a demandé à ce qu'on puisse se rencontrer. J'ai accepté. Moi, j'ai pas, comme pour la réforme, j'ai pas la rencontre honteuse. On se rencontre pas derrière les fagots là, de manière un peu planquée. On s'est vu, il est venu me voir à mon QG de campagne. On a discuté de notre vision de Paris, on a discuté aussi de la manière dont on faisait campagne, on a discuté aussi du climat dans le pays. Donc voilà, on a échangé nos points de vue sur ces sujets-là.
Vous avez des convergences éventuellement dans le cadre de la campagne ?
Non, mais on peut avoir des points d'accord, notamment par exemple sur la lutte contre les inégalités. C'est un sujet qui nous a rapprochés. Après, sur la campagne de Paris, sur notre projet parisien, on n'est pas dans une convergence ou un échange ou de dire comment on fait pour travailler ensemble.
Vous n'êtes pas là-dedans ?
On n'est pas là-dedans.
Pas là-dedans du tout. Vous jouez la gagne pour les municipales en mars à Paris, Rachida Dati ?
D'après vous ?
J'imagine que vous allez me dire oui.
Voilà.
Tous les candidats le disent en même
temps. Oui, en tous les cas, moi j'y vais pour gagner. Je suis déterminée. Le combat ne me fait pas peur et vous le savez. La difficulté me fait encore moins peur et vous le savez aussi. Et puis les obstacles, je les surmonterai comme j'en ai surmonté tant d'autres. Voilà, donc on est en campagne. On est une équipe, c'est vrai, restreinte. On a beaucoup de militants qui nous soutiennent. Les Parisiens veulent changer. Ils veulent qu'à Paris, ça change. Voilà. Quel que soit, c'est-à-dire que première question, quand vous discutez avec un Parisien, vous dites ça n'est plus possible et il faut changer Paris. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, effectivement, on a un projet, on a un programme, on a des militants, on a des candidats, donc on fait campagne.
Vous parlez des candidats, est-ce que ce n'est pas un problème dans votre campagne de refuser d'avoir le maire actuel sortant du 15e et du 17e qui ne vous soutiennent pas, mais de mettre des candidats LR face à eux? Est-ce que ce n'est pas risquer de faire perdre des arrondissements
non,
à la droite?
Non, parce que, on parlait juste avant de la clarté et de la cohérence. Il faut de la clarté et de la cohérence. M. Goujon a décidé de soutenir...
Maire du 15e.
Oui, de soutenir le candidat d'Agir.
Pierre-Yves Van Hazel.
Oui, c'est la démocratie, il a fait son choix. Moi, j'ai été investie par ma famille politique. J'ai présenté un projet lors de la commission d'investiture. Il a été validé par cette commission et largement validé. Et donc, on m'a demandé de porter ce projet dans l'ensemble des arrondissements pour tout Paris. Et donc, notre projet, il ne ressemble pas forcément à ceux des autres mouvements politiques. Donc, nous, on est obligés d'avoir des candidats partout dans les arrondissements, partout dans Paris.
Un tout dernier mot, Geoffroy Boulard, qui est donc maire du 17e, LR, mais qui, a priori, veut faire campagne sans étiquette, dit que, en mettant des candidats face à lui et dans le 15e, vous devenez une puissante alliée d'Anne Hidalgo, Rachida Dati. Vous allez en fait favoriser la réélection d'Anne Hidalgo ?
Et quand on n'affiche pas la famille politique qui vous a porté, qui vous a fait élire, M. Boulard, il vient d'où ? Il n'a jamais été élu sur son nom. Il a hérité du mandat de Mme Kuster et il a réclamé urbi et torbi en se roulant par terre l'étiquette Les Républicains pour toutes les échéances précédentes. Et aujourd'hui, LR, on a honte d'être LR avec tout ce que ça nous a donné, nous a apporté. Moi, vous savez, j'ai le sens de la reconnaissance. Donc voilà, moi j'ai le respect pour nos militants qui nous ont portés, qui nous ont permis d'être élus. Moi je respecte les militants et les électeurs.
Et vous êtes fier d'être LR pour ces municipales?
Moi je suis de droite on a un projet de droite mais qui est très ouvert, on a un projet très parisien.
Merci voilà. Rachida Dati d'avoir été mon invitée.
Europe 1. À suivre, Nathalie Lévy.
Restez avec nous à 19h30, votre grand journal du soir passe en mode week-end avec Anne Roumanoff. Elle sera dans ce studio et jusqu'à 20h, on va prendre le temps de souffler un peu, de sourire aussi au milieu de cette actualité chargée. Ça ne fera pas de mal et restez avec nous parce que vous pouvez nous appeler au 3921.
Oui, vous pouvez poser vos questions à Anne Roumanoff. Vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy. C'est jusqu'à 20h. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy. Et tous les jours avant 19h30, on s'intéresse à ce qui va se passer demain sur notre planète.
Et particulièrement pendant cette COP25, notre rendez-vous spécial pour regarder notre planète. Et nous voici en Europe pour cette dernière étape ce soir, dans les Alpes françaises, la montagne, où figurez-vous, le réchauffement climatique se répercute aussi, là, et même de façon beaucoup plus intense, à tel point que le sol se réchauffe en altitude et déstabilise les remontées mécaniques. Et oui, reportage à Chamonix, Virginie Salmen. Virginie, vous êtes allez le constater là sur place. Hein.
Dans cette station, au pied du Mont Blanc, plusieurs pylônes de la télécabine du Beauchard ont bougé l'hiver dernier, au sommet, à 2700 mètres d'altitude. Parce que le sol ne gèle plus en permanence, conséquence, la roche craque ou bouge. Un guide historique de Chamonix, Christophe Boloyan, nous emmène au massif des Grands Montais pour se rendre compte des mouvements du sol.
C'est vraiment les socles des pylônes qui ont tendance à s'affaisser. Et donc l'inclinaison des pylônes et du câble est complètement modifiée. C'est de la mécanique de précision, donc les câbles doivent être dans un alignement parfait. On ne peut pas admettre une modification de cette ampleur-là.
1 million d'euros de travaux ont dû être faits pour consolider la télécabine du Beauchard, planter des tiges de métal à 12 mètres de profondeur. Un mois de fermeture imprévue en pleine saison de ski. Et ça n'est pas le seul exemple. Entre 5 et 10% des remontées mécaniques seraient touchées, selon les scientifiques qui surveillent le sous-sol alpin. Parmi eux, il y a Pierre-Alain Duvillard.
On a des cas comme par exemple le télésiège de Rosael à Aurel, Val Thorens, où la gare d'arrivée a dû être déplacée et reconstruite 30 mètres en amont du fait de la fonte du permafrost. Mais ce risque, il n'est pas pour les skieurs, par exemple, puisque ces infrastructures sont très suivies et dès lors qu'on a un mouvement d'un pylône, l'exploitant le voit directement et dans ce cas, il ferme l'infrastructure. Donc il n'y a pas de risque de télésiège, de télécabine qui pourrait se décrocher en fonctionnement. Quoi.
Il y a des solutions, soit on consolide comme ce qu'on vient de voir, soit on construit sur pilotis ou avec des fondations réglables comme dans les régions où il y a des séismes. Et ça vaut aussi pour les refuges de haute montagne fragilisés au-dessus de 2600 mètres. Il y a un exemple très récent qui a particulièrement marqué notre guide Christophe Boloyan.
Il y a un refuge assez emblématique qui s'appelle le bivouac des Périades. C'est un bivouac assez célèbre parce qu'il a été filmé pendant le film Premier de Cordée. Alors ce bivouac cet été a manqué de s'effondrer. Tout le sol s'est affaissé. fessé. Il s'est incliné de manière assez impressionnante. On peut observer d'une année à l'autre ce qui se passe. Mais j'ai même envie de dire d'une journée à l'autre.
Alors, bonne nouvelle, ce petit refuge, comme c'est un bijou d'architecture montagnarde, il a été sauvé. Un groupe de guides a mené une expédition pour l'élitreuiller avec des sangles, l'emporter un peu plus bas, le temps que le sol se stabilise.
Et comme tous les soirs de cette semaine, les explications avec vous Virginie. Vous êtes venue jusqu'à nous cette fois en studio. Bonsoir.
Bonsoir.
À quoi faut-il s'attendre dans les décennies qui viennent dans les Alpes ?
Eh bien, les paysages vont radicalement changer. Je ne mets même pas le conditionnel parce que les scientifiques du GIEC montrent dans leur dernier rapport que même si on faisait des efforts drastiques dès maintenant pour contenir les émissions de CO2, eh bien, nos glaciers des Alpes perdraient 60 à 70% de leur masse et sans effort. Si on continue à polluer autant qu'en ce moment, ils fondront de 90% au moins. On peut dire qu'ils auront quasiment disparu d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire en 2100. Même les glaciers très emblématiques, comme la mer de glace ou le glacier d'Argentière dans la vallée de Chamonix. Parce qu'un glacier, eh bien, ça ne repousse pas. Une fois qu'il a commencé à fondre, c'est irréversible. À l'échelle planétaire, les Alpes sont considérées comme des zones de montagne relativement petites, pas très hautes, si on les compare à l'Himalaya, l'Alaska ou à la Patagonie. Mais elles sont les plus susceptibles de voir disparaître la plus grande quantité de glace dans les décennies à venir.
Alors ça veut dire, Virginie, aussi qu'il y aura de moins en moins de neige, hein, c'est ça ?
Alors ça n'est pas aussi net et mécanique que pour la glace parce que ce sont des précipitations. Donc le dérèglement climatique fait que certains hivers sont froids, d'autres moins. Ce qui va changer, c'est la limite pluie-neige qui remonte d'année en année. Donc pour avoir une chance de trouver de la neige et pas de pluie, il faudra skier de plus en plus haut en altitude.
Merci beaucoup Virginie Salmen, spécialiste environnement à Europe 1. Merci à vous.
Europe 1.
Et votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est tous les jours jusqu'à 20h. Quelle est la suite du programme pour la prochaine demi-heure ?
Anne Roumanoff, Anissa. Anne Roumanoff qui vient nous joindre là aussi dans ce studio pendant une demi-heure. On va parler de son nouveau spectacle, de son livre également. Divorcée joyeuse, c'est le titre aux éditions du Cherche Midi. On va vous donner des idées de lecture avec le Figaro Magazine. On va déguster. Ben voilà, le programme d'avant week-end, on aime ça.
Ça sent bon le week-end en effet. Et si vous voulez poser toutes vos questions à Anne Roumanoff, c'est le 39-21. 19h30 sur Europe 1, la suite de votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Anne Roumanoff s'est installée dans ce studio, mais d'abord les infos, les dernières avec vous, Théo Manval.
Édouard Philippe ne reculera pas sur la suppression des régimes spéciaux de retraite. Le Premier ministre s'est exprimé cet après-midi à la télévision pour tenter d'apaiser la colère après la journée de mobilisation massive d'hier. Il présentera mercredi prochain l'intégralité du projet du gouvernement, promet une transition progressive, mais bien la disparition actée de ces régimes spéciaux. En attendant, la grève se poursuit à la SNCF et dans les transports en Île-de-France. Un trafic extrêmement réduit tout le week-end et encore très perturbé lundi, indique la RATP. 5 TGV sur 6 supprimés dans toute la France ce week-end, dit la SNCF. Ce sera un peu meilleur dans les airs. Air France prévoit d'assurer tous ses vols demain. Verdict attendu ce soir aux assises de la Somme dans le procès du meurtre d'Élodie Kulik. L'avocate générale a requis 30 ans de prison à l'encontre de Willy Bardon. Et puis les sports, coup dur pour les handballeuses françaises éliminées dès le premier tour du mondial au Japon. C'est une bonne claque, dit le sélectionneur Olivier Krumbholz à 6 mois seulement des Jeux Olympiques.
Eh oui, que dire d'autre ? Merci Théo Manval. 18h-20h, ce sera Sébastien Crest, mais on est content de vous voir. Revenez quand vous voulez.
Avec plaisir.
De la pluie demain, Anissa.
Oui, de la pluie parce qu'il y a actuellement une perturbation qui est en train de traverser la France. D'ailleurs, il pleut hein, là sur Chaumont, sur Langres, sur Vittel, sur Neufchâteau. Alors cette perturbation, elle va s'installer demain un peu plus longuement sur la France, avec sur l'Aquitaine, l'Occitanie, l'Auvergne, la région lyonnaise, les Alpes, la Bourgogne, la Franche-Comté. Des pluies qui deviendront plus faibles hein, au fil des heures. Dans l'après-midi, ces pluies, elles vont donc se calmer et elles vont se décaler vers l'est. Sur les Pyrénées, le Languedoc-Roussillon et le littoral méditerranéen, donc au sud, le ciel est dégagé. Vous aurez une belle journée demain avec quand même de belles parties ensoleillées. Mais attention, le Mistral et la Tramontane vont souffler demain après-midi. En Corse, c'est toujours couvert demain. Et puis toujours ce vent d'ouest qui souffle sur le Cap Corse jusqu'à 80 km/h dans l'après-midi. Les températures, allez, on gagne quelques degrés demain. Moins 1 à Avignon, 2 degrés à Lyon, 7 pour Paris demain matin. Et dans l'après-midi, 11 à Paris, 14 à Brest et Biarritz et 17 degrés pour Toulon.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy, avec notre invité jusqu'à 20h.
Oh là là.
Et les auditeurs peuvent lui poser des questions en direct au 39-21.
Exactement, c'est Anne Romanoff qu'on accueille dans ce studio. Bonsoir et bienvenue Anne Romanoff. Je suis ravie de vous avoir. C'est sympa d'être restée un peu plus longtemps parce que votre émission en direct, c'est Europe 1 de 11h à 12h avec Ça fait du bien, évidemment. Le JDD, le film en préparation, ce livre Divorcée et joyeuse aux éditions du Cherche Midi. Et sur scène, bien sûr, à l'Olympia, les 16, 17 et 18 décembre prochain, tournée dans toute la France également. Waouh, ça en fait des choses, Anne Romanoff.
Oui, mais j'ai la chance, enfin, j'aime bien ce que je fais et ça marche aussi. Et voilà, parfois, quand on est artiste, c'est vrai qu'on a des fois du surcharge de travail, mais c'est toujours dans le plaisir quand même.
Et c'est pour ça que tout va bien.
Oui,
c'est pour ça que tout va bien. C'est parce que vous êtes comme ça dans tous ces domaines qui vous plaisent. Vous êtes...
Non, quand le spectacle qui s'appelle Tout va bien, c'est très ironique. Ça ne vous aura pas échappé qu'il y a des petits problèmes quand même, en ce moment. Non, je parle de tout ce
c'est
qui va
mal. C'est pour conjurer le sort ?
Non, je parle de tout ce qui va mal et on ne fait pas rire avec le bonheur, on fait rire avec les problèmes. J'essaye de tourner ça en dérision et de détendre les gens avec tout ce qui ne va pas bien. Donc là, évidemment, je vais avoir un passage sur les grèves, sur les retraites aussi. Parce qu'il y a une partie sur l'actualité qui clôt le spectacle. Je fais 20 minutes sur l'actualité. Mais sinon, après, c'est un spectacle qui est très ancré dans la vie quotidienne. Donc je parle à la fois du divorce, mais je parle aussi des cookies sur Internet, les réseaux sociaux dans notre vie, les ados qui font des études improbables.
Le développement personnel,
ouais.
Comment on écrit tous ces personnages ? Parce qu'on va parler d'actualité dans un petit instant, évidemment, vous connaissez ça par cœur. Mais comment vous écrivez tous ces personnages ?
En fait, quand on fait... c'est pas tellement de trouver des thèmes, parce que les thèmes, il y a plein de thèmes, et a priori, de tout ce qui va mal, on peut faire de l'humour. Mais après, c'est comment on rend drôle un truc qui n'est pas drôle. Donc après, je prends des notes et puis j'essaye aussi, c'est-à-dire que parfois il y a des sketchs que je jette à la poubelle parce que je teste énormément jusqu'à avoir aussi une grande cadence de rire parce que il faut être efficace, il faut que les rires tombent et tout, les gens viennent pour ça quand même, donc c'est beaucoup de travail de mise au point, d'écriture, de peaufinage. Parfois, je remets le sketch en atelier, je le retravaille. L'écriture d'humour, ça consiste quand même beaucoup à couper dans le gras quand même pour atteindre une efficacité. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de surprendre les gens parce que le rire, ça naît de la surprise. Si vous, il y a un sketch, vous le démarrez, on sait déjà comment ça va se terminer. C'est pas intéressant, ni pour le public, ni pour moi d'ailleurs.
Ouais. Vous nourrissez évidemment énormément de l'actualité, votre chronique notamment dans le journal du dimanche. L'actualité, elle est partout chez vous. Vous avez toujours aimé ça, vous la suivez de manière assidue. Vous êtes un peu psy de la société quand vous êtes humoriste. Et aujourd'hui, quand vous voyez les retraites, aujourd'hui, quand vous voyez épisode 2, parce qu'il y a un an, c'était les Gilets jaunes, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites que le pays va comment ?
Oh non, alors ça, je ne me permettrai pas. Je trouve que ce n'est pas mon rôle de faire une analyse. Je ne me sens pas légitime. Mais après, moi, je sens les pulsations du public sur scène. C'est-à-dire que parfois, je peux sentir l'état de l'opinion. On sent si certaines vannes marchent mieux que d'autres. Voilà. Là, c'est trop tôt pour dire ce qui va se passer. Et puis hier, j'ai joué en Suisse. En fait, j'ai fait des vannes sur les retraites, mais ils n'étaient pas trop concernés. Par exemple, je fais un sketch sur le politiquement correct où je pose des questions au public, ils doivent répondre. Et par exemple, un truc sur l'accueil des migrants. Les Suisses, ils répondaient tous oui, mais à l'unanimité. Ah oui. Alors qu'en France, chaque fois que je pose la question sur l'accueil des migrants, il y a la moitié de la salle qui dit oui et l'autre qui dit non. Et là, ma vanne est tombée à plat parce que tous les Suisses, apparemment, je le signale aux migrants, ont l'air très d'accord pour accueillir beaucoup de migrants. C'était assez incroyable. Non, mais c'est des petites différences culturelles, finalement, entre chaque pays.
Mais notable, celle-ci, elle est extrêmement notable.
Je le signale.
Exactement, on va l'inscrire en gras. On se retrouve à Romanov dans une seconde. Les auditeurs nous appellent. Ils ont aussi envie de vous poser des questions. Vous connaissez le système. Et puis, je voudrais quand même savoir, les gens ont envie de rire plus ou moins selon les périodes, vous allez me dire ça.
Anne Romanoff dans votre grand journal du soir, c'est jusqu'à 20h et c'est sur Europe 1 bien sûr. Et des cadeaux, il y en a aussi dans votre grand journal du soir jusqu'à 20h, puisqu'Anne Romanoff est votre invitée Nathalie Lévy. Et en plus de nous présenter tout ce qu'elle fait en ce moment, livre, spectacle, eh bien, elle répond aux questions des auditeurs au 39-21.
Exactement, on va répéter précisément les dates du spectacle, parce que c'est là, demain quasiment, les 16,
jours.
17, 18 décembre prochain, la pression monte. Ça s'appelle Tout va bien, vous serez
à l'Olympia,
toute la France, absolument. La représentation du 16 décembre, précisément, elle sera retransmise, Anne, en direct, dans 190 cinémas CGR dans toute la France et aussi en Belgique.
En Belgique,
il y en a pour tout le monde. Donc
au début, il y avait 57 cinémas et ça s'est rajouté. Maintenant, on a 183 et tout. Et là, je commence à
jouer dans un stade de France.
Non, mais c'est vrai que c'est. Je ne sais pas combien il y aura de personnes dans les salles, mais c'est vrai que c'est. Après, du coup, je fais du jogging, tout ça.
Ah bah, il faut, oui. Faut exactement.
Oui, mais enfin, je m'y suis mis il y a 15 jours, donc je cours pas beaucoup. Mais
les premiers résultats vont arriver. Virginie nous appelle de Lille. Bonsoir, Virginie.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, vous avez une question pour Anne.
Oui, Yann, je suis vraiment déjà très contente de vous avoir en ligne, en direct. J'adore vraiment vous écouter le matin, déjà.
Merci
beaucoup pour votre auto-dérision. Et bravo, parce que 32 ans de scène et bientôt 33 ans, mais ça, c'est quoi 33 ans de scène ?
Bah, ça me surprend, en fait. C'est vrai que j'ai démarré en 87, j'avais 22 ans, et là, j'ai 54 ans. Et dites, Nathalie, oh, dites, je ne l'ai pas.
Franchement, sans maquillage, elle n'est pas maquillée, Anne. Hein. Elle arrive comme
si
ça.
Si, j'ai un peu de fond de teint, quand
même. Ça
non, enfin bref, non, mais ça fait 30... Ouais, je suis étonnée, en fait, que ça fasse autant de temps. Je n'ai pas l'impression... mais en fait, je pense que je me suis tout le temps remis en cause et je ne suis pas tellement tournée vers le passé, je suis tournée vers le présent et le futur, en fait. Mmh. Mais je dirais que, par contre, le fait d'avoir 33 ans de scène, c'est que j'ai quand même... Maintenant, ça peut paraître bizarre, mais j'ai plus de plaisir sur scène, je lâche plus prise, je suis moins dans l'angoisse du rire qui doit tomber. Enfin, j'essaye de, bien sûr, évidemment, d'être énergique, efficace et tout ça, mais je suis plus. Il y a quand même un métier et ouais, on peut se reposer un peu.
Il y a des acquis. Nadège nous appelle. Merci à vous, Virginie de Lille, hein, qui était contente de vous entendre. On l'a entendu aussi. Nadège nous appelle, elle, de l'Ardèche. Bonsoir à vous, Nadège.
Bonsoir.
Si vous avez une question, c'est maintenant.
Allez, alors moi, c'est un peu plus intime. Je sais que Anne, son célibat, lui pèse un petit peu. Et je voulais savoir si elle était inscrite sur un site de rencontre pour...
Comme ça, à 19h43, la question qui va bien. Il faut dire que vous signez aussi Divorcée et Joyeuse aux éditions du Cherche Midi. Hein, on ne va pas s'en cacher. Elle est joyeuse, moi, je peux vous le dire, en tout cas, en studio.
Non, écoutez, tout va bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, si ça ne vous ennuie pas, mais tout va bien. Et je ne vais pas sur... Non, ça va.
Pas de site et vraiment joyeuse, vraiment heureuse. Merci Nadège, c'était bien tenté. C'était bien tenté, il fallait y aller,
c'est
il fallait
votre
oser. joyeuse.
Oui,
c'est
vraiment.
Ce que vous racontez dans le livre.
Après, c'est pas un livre, évidemment. Je ne suis pas en train de faire l'apologie du divorce. Ça reste une épreuve dans la vie. On ne se marie pas pour divorcer, donc c'est une forme d'échec. Et voilà, moi, je suis restée mariée 25 ans, ce qui est déjà pas mal. Mais maintenant, alors, ce n'est pas que à cause du divorce que je suis joyeuse, ce ne serait pas très sympa pour mon ex-mari, mais c'est un ensemble de choses qui fait que maintenant, je me sens à la fois plus épanouie, plus légère par rapport à certaines choses, plus cool.
Vous donnez aussi des conseils. Hein,
non, alors attention, c'est des conseils.
Pratico-pratique,
en tout
cas.
C'est humoristique. Bah oui. Je ne me prends pas pour une psychologue. Parce que... Non, mais.
On ne vous attendait pas là-dessus.
Non,
hein.
c'est un livre vraiment qui fait rire et il est conçu pour ça. Et je suis très contente. Je fais pas mal de signatures en province, en banlieue. Et des gens qui me disent ah, j'ai rigolé en lisant. Et c'est vraiment le but, quoi. Qu'on ouvre le livre et il y a des illustrations de Maï fait des gribouillis. On a travaillé aussi sur les dessins pour que ce soit vraiment drôle aussi.
Alors, drôle, elle est drôle quand elle part d'actualité, quand elle parle de sa situation plus personnelle, Anne Romanoff, toujours caustique, ironique aussi, sur scène en tout cas, à l'Olympia, les 16, 17 et 18 décembre prochains, la tournée dans toute la France, la représentation du 16 retransmise en direct dans 190 cinémas dans toute la France et en Belgique, le 16 décembre, donc soyez au rendez-vous. Anne Romanoff, on reste ensemble, on va déguster, on va s'informer, on a du monde qui arrive en studio, vous allez voir, c'est appréciable.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours et c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir. Et tous les vendredis, Nathalie, on prépare le week-end. Souvent, on se régale. Et en plus, on fait tout ça avec notre invitée, Anne Romanoff, jusqu'à 20h.
Absolument. Et donc, on va, je vous assure, il y a énormément de cadeaux dans ce studio, Anne Romanoff. On va voir comment on se les répartit à l'issue.
Je suis au régime, je ne mange rien.
C'est vrai, il est vrai qu'il y a jogging. Bon, alors, il y a le Figaro Magazine et on va vous proposer évidemment des idées de lecture, de sortie, de découverte avec vous, Nicolas Nguemout. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue dans ce studio. Vous êtes journaliste au Figaro Magazine. Donc, avant la culture, on se parle gastronomie avec vous, Marion Sauveur. Salut, Marion. Alors,
bonsoir. Là,
on en a de tous les côtés. On ne sait où donner de la tête. Qu'est-ce que vous nous avez apporté ce soir?
Alors, des cadeaux gourmands, hein, puisqu'un tiers des Français ont mis sur leur liste un cadeau autour de la cuisine.
Ah, super.
Et on commence avec un cadeau à moins de 5 euros. C'est le petit pot à épices de chez Nomi. C'est un sourceur d'épices de qualité, Nomie. Et par exemple, ce poivre à raclette, c'est cette saison. C'est sympa, une association de poivres à associer au fromage.
Et en plus, c'est très joliment présenté.
Et oui. Pour les becs sucrés, à moins de 10 10 euros, vous trouverez un peu partout des pâtes à tartiner françaises, avec notamment ce chocomiel, une magnifique collaboration entre Eden et le chocolat des Français, un bon goût de noisette et subtil de miel. Et puis des pâtes à tartiner, des caramels à tartiner signés la Frenchie, F-R-E-N-C-H-I, sans huile, sans additifs, avec des produits de qualité.
Ah oui.
Et puis la maison Colibri, spécialisée dans les madeleines, réalise pour Noël des coffrets à personnalisé
c'est
avec un
beau.
Petit mot. C'est 25 euros les 15 madeleines. Et celui-ci est pour vous, Nathalie. Il est personnalisé rien que pour vous.
Ah bon, c'est pas vrai.
Sur
oui,
dessus, écrit
Nathalie.
Oh,
c'est Nathalie.
Oh, c'est super sympa. Merci beaucoup. Oh bah écoutez, je suis ravie, je suis troublée. Il y a des livres aussi que vous nous conseillez.
Ben oui, Les copains d'abord de Pierre Gagnère, le chef 3 étoiles, un livre de cuisine extrêmement accessible. Pour les amateurs de pâtisserie, le très beau livre de Yann Couvreur qui s'appelle Éphémère sur les desserts à l'assiette. Et puis, pour ceux qui adorent le poulet voyageur de Mireille Sanchez, c'est une véritable bible, 1000 recettes. Et puis, dans un autre genre, il y a Pascal Selem qui sort son livre de cuisine, ça s'appelle Tous à poil, et c'est parsemé d'humour.
Pour les plus gros budgets, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on a par exemple cette cocotte Mao Nabe, une cocotte japonaise d'exception, sortie du feu, elle garde 40 minutes la chaleur, 395 euros tout de même. Et puis, une box à offrir qui s'appelle Moi Chef, ça coûte 80 euros. Et ce sont 5 produits d'exception choisis par un chef. Et en ce moment, c'est le chef 3 étoiles, Yannick Aleno.
Magnifique. Vous cuisinez, Anne Romanoff?
Pas du tout.
Non, je peux pas le croire.
Pas du tout. Bah non, j'ai pas trop le temps.
Bah, évidemment, mais quand même, vous aimez ça?
Bah, je sais faire des salades et des omelettes.
Ah oui, ça va pas loin.
Je vous dis la vérité.
Ok. Bon, bah, très bien. Vos filles ont dû
et
apprécier.
Des pâtes, et du riz aussi.
Ouais. C'est déjà pas mal.
Et du saumon grillé.
Ah, voilà. Pour les enfants, Marion, on a une idée de cadeau?
Eh bien oui, ça s'appelle Le Petit Chef, c'est Opinel, un couteau, un éplucheur et un protège-doigts pour simplement que les enfants mettent la main à la tapate sans se faire du mal du coup.
Ah super, alors tout ça et puis plein d'autres choses encore.
Bien
c'est
sûr.
Avec vous Marion aussi chez Laurent Mariotte dans Les Bons Vivants, c'est de 11h à 12h30 sur Europe 1. Demain, soyez au rendez-vous, il y a plein de surprises avec vous, assurément, et déjà là, on est ravis. On va se parler évidemment culture, on va se parler de tout ce qu'il y a comme bon plan lecture, par exemple, ce week-end, entre autres, avec vous, Nicolas. D'abord, la couverture du Figaro Magazine, dont on est partenaire. Vivre au libre avec ce portrait magnifique, cette rencontre d'une grande gueule, Olivier de Kersauzon. Elle est sublime, cette une. Hein.
Oui, c'est une belle photo. Ouais. Et c'était aussi une belle rencontre. Kersauzon vient de sortir un livre au Cherche Midi qui s'appelle « De l'urgent, du presque rien et du rien du tout », qui est une espèce d'abécédaire. Avec des aphorismes, des textes un peu plus longs, assez autobiographiques. Et moi, j'étais ravi de le rencontrer parce que moi, je n'y connais rien, la voile. Hein. Je vomis en bateau, j'aime pas la mer. Simplement, c'est un homme
c'est
plein de bon sens. Pardon ?
Vous lui avez dit ?
Ouais, ouais, je lui ai dit. Bah, il s'en fout, lui. Hein. Tout de même, le livre est pas sur la, c'est pas sur la voile. Hein. Mais il est extraordinaire parce qu'il aime bien passer pour un ours. Alors qu'en fait, c'est quelqu'un d'assez, même de très lettré et extrêmement raffiné, qui a un esprit un peu à la Audiard. C'était un ami intime de Jean-Yann, il en parle dans l'article. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui gagne à être connu parce que c'est autre chose que la figure qu'il donne de lui aux grosses têtes. Quoi. Voilà.
On parle d'un film, Une vie cachée de Terrence Malick.
Ouais.
Alors il faut avoir du temps. Anne Romanoff n'ira certainement pas parce qu'il faut 3 heures, Anne. Vous allez au cinéma?
Ah oui, oui,
vous
j'adore
avez
le cinéma.
Au cinéma
oui, bien sûr.
Ouais, vous avez un style particulier?
J'aime
avez...
tout. Là, j'ai vu La Belle Époque, j'ai vu Joyeuse Retraite, j'ai vu Les Misérables.
Ah, quand même.
Ouais, j'adore.
Donc vous n'avez pas
cinéma.
De temps pour cuisiner, mais oui, pour aller au
cinéma.
Elle change ses choix.
Alors, le Terrence Malick.
Bah, Malick, c'est un type étonnant qui a fait 9 films en 40 ans, qui a disparu entre 78 et 98. Donc, on pensait qu'il ne referait plus jamais de cinéma. Ouais. Puis, depuis, il est revenu. C'est un magicien de l'image. C'est vraiment un très, très grand formaliste. Et là, il fait un film sur un Autrichien qui vivait dans un tout petit village et qui était le seul du village à ne pas voter pour l'Anschluss et donc qui a refusé de combattre aux côtés de la Wehrmacht, qui a été emprisonné en tant qu'objecteur de conscience puis décapité par les nazis, qui a été d'ailleurs béatifié par Benoît XVI. Et donc c'est effectivement, comme souvent avec Malick, très long, très lent, mais en même temps d'une beauté absolument foudroyante. Quoi.
On a une rencontre, vous, Nicolas, vous avez rencontré James Ellroy, vous?
Ouais, pour la deuxième fois, ouais. Ah bah j'ai quasiment tout fait dans ce numéro, sauf les petites annonces. Mais non, Elroy, il est là. Là, c'est ce qu'il fait est vraiment techniquement incroyable parce qu'il a sorti à la fin des années 80 un cycle de quatre romans qu'il a appelé Le Quatuor de Los Angeles, qui a commencé par le Dahlia Noir. Je pense que tout le monde ici connaît ce livre et puis l'adaptation du film. Et là, maintenant, il est au deuxième livre d'un second cycle qui précède ce cycle-là. C'est-à-dire que le premier Quatuor de Los Angeles commençait à la fin des années 40 et s'achevait au début des années 50. Et là, il fait quatre romans qui se passent avant, c'est-à-dire de 39 à 42. Voilà.
Alors, c'est vous, là aussi, qui avez bossé, James Ellroy, mais aussi cette rencontre et cette une magnifique, Olivier de Kersauzon. C'est la une du Figaro magazine Vivre Libre, hein, on l'a vu. Merci beaucoup. Merci, Nicolas, d'être venu nous voir. C'était une première ensemble, journaliste au Figaro magazine. Merci. J'espère pas une dernière. Anne Roumanoff, les 16, 17, 18 décembre prochains à l'Olympia. Et vous êtes en tournée dans toute la France. Ça s'appelle Tout va bien. C'est votre spectacle. Représentation du 16 décembre, retransmise en direct dans 190. Oui. Le compte est bon.
Oui, c'est ça.
190 cinémas dans toute la France et en Belgique, en jogging pour être en forme d'ici là.
C'est ça.
Et évidemment, à la radio, à la télé, partout. Je ne sais pas comment vous tenez. Mais merci d'être passé par ici ce soir.
Merci à
tous. Merci Marion Sauveur. Émilie Mazoyer.
Présente.
C'est parfait. Vendredi soir avec vous, ça se passe comment?
Ça se passe bien. Ça se passe comme tous les vendredis avec le banc d'essai, des nouveautés musicales. On aura notamment un joli extrait de l'album live de Laurent Voulzy, live au Mont-Saint-Michel. Ça, c'est absolument magnifique. Un petit duo aussi entre Christophe et Philippe Catherine. Donc, comme tous les deux sont un peu barjots, le duo est barjots, j'annonce. Hein, voilà, vous l'aurez tout à l'heure. Et puis, l'interview d'un jeune rocker français qui s'appelle Théo Lawrence. Et alors, j'appuie sur le jeune et français parce que ça s'entend pas. Shining, shining, shining in a running wild. Je dirais plutôt un vieux ricain quand même. Hein. Ouais. Burn,
avec son verre de whisky en Louisiane.
Bah lui, il est plutôt au soda, mais il est vraiment chouette. Théo Lawrence, et il vient de sortir son deuxième album Sauce Piquante. On l'aura en interview tout à l'heure.
Bon, très bien, très bon programme pour un vendredi soir avec vous, Émilie Mazoyer. Merci à vous. Merci à beaucoup, Anne Roumanoff, d'être passée par là. Merci à tous, merci à toute l'équipe et aux auditeurs de nous être fidèles. On se retrouve lundi, 18h-20h sur Europe 1. Soyez là. Salut Anissa.
À lundi, bon week-end.
Et on sera là pour écouter le monde changer.
C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.